Amis trésistes du soir, bonsoir. La 7e édition de la 13e heure, ce soir en direct de Canet, sur les hauteurs de Canet, à la colline des loisirs, dans le bar La Cabane de Christian Barrelier, trésiste évidemment, qui est également eh bien, l'employeur de Bruno Antoniente, son valet, qui est également Bruno Antoniente, évidemment, le journaliste de l'Indépendant et de France Bleu Roussillon, dont la voix VOX, comme avait dit une fois Hervé Guiraud, qui lui est la voix VOIE. Voilà, alors toujours autour de cette table... toujours autour de cette table, bien du beau monde, du gratin, du trésiste évidemment. Donc Hervé Guiraud, la voix VOIE de la Fédération française de rugby à 13, secrétaire général de la Fédé. Alain Forge, dirigeant des Dragons. Bruno Antoniente, donc, que l'on vient de présenter. René Montala, le papa du forum, le créateur du forum. Un ami de Saint-Cyprien, prénommé Stéphane, qui fait partie de la Peña de Saint-Cyprien. Monsieur. Autant pour moi. Monsieur Bousquet, Jean-Marie Bousquet, président de Saint-Cyprien de la Peña également. Olivier Gondran, comme d'habitude, le président de la Peña des Dragons de la Tête. Et puis l'incontournable Louis Bonnery.
Tout de rose vêtu.
Voilà, tout de rose vêtu. Et puis nous avons le nom, nous avons l'honneur et le privilège ce soir d'avoir eh bien, à nos côtés deux joueurs, comme précédemment, ça avait été le cas avec Jamel Fakir et Olivier Lima. Puis juste un petit peu avant, Cyril Gossard, effectivement, et Jérôme Guisset. Voilà. Et puis en amont, on a vu aussi Dallas Johnson. Voilà, ce soir, c'est donc Rémi Casti et Sébastien Raguin qui nous font l'honneur d'être avec nous. Bonsoir. Et puis notre ami Zoulou qui est derrière, qui va donc filmer une partie de l'émission. Il ne filme pas aujourd'hui, il est venu pour l'apéritif. Alors voilà, mais tant pis, il est venu sans sa caméra. Voilà, donc on n'applaudit pas. Alors donc pour cette 7e émission, on va recommencer ben, comme précédemment, c'est-à-dire avec un petit peu de difficultés et de remords, puisque les Dragons ne sont pas pour l'instant eh bien, bien revenus dans la compétition. Au contraire, il y a pas mal de doutes et d'interrogations et ça se complique de plus en plus. On peut s'adresser, je pense, aux joueurs de suite. On attendait une réaction, on attendait un plan anti-choc contre l'FC samedi dernier. Manque de peau, c'est passé à côté. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Sébastien Raguin.
Ouais, ça a été compliqué samedi. Donc on a été amené au score contre le vent. En première mi-temps. Trois doigts, c'est bon, j'y suis là ? Hervé, j'y suis là ? Bon, c'est bon alors. Donc on a été mené à la mi-temps et après, en la seconde mi-temps, on n'a pas réussi à remonter. On a fait des fautes et après, l'arbitre ne nous a pas aidé parce qu'il a pénalisé juste avant qu'on marque à chaque fois, mais il n'en a jamais mis un dehors, quoi. Alors que je pense qu'avec la répétition des pénalités qu'il y a eu, je pense qu'ils auraient mérité... d'aller faire une pause sur le banc.
Oui, t'as d'autres. Rémi, toi qui joues devant, justement, est-ce que tu as senti qu'il y avait vraiment une agressivité débordante de leur part ? Est-ce que comparé aux équipes précédemment jouées, c'était plus rude que d'habitude ?
C'est vrai qu'ils ont mis beaucoup d'agressivité par leur ligne aussi, leur vitesse de ligne en défense. Naturellement, c'était déjà agressif. Et en plus, c'est vrai qu'à des moments, c'était un peu à la limite du raisonnable, quoi. L'arbitre aurait vraiment pu siffler ou sanctionner certains joueurs, quoi.
Alors autour de la table, là, forcément tout le monde était au stade samedi. Quel est votre sentiment général sur cette défaite, Olivier ?
Mais après le match des Crusaders où quand même les Dragons avaient gagné, on va en parler peut-être après. C'est vrai qu'on pensait que les Dragons pouvaient enchaîner sur une victoire face à Hull. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, ils sont tombés sur une grosse équipe quand même. Hein. Fitzgibbon revenait, Sean Long revenait, ça a été le métronome, hein, il a joué sur du velours. O'Malley devant a pris un nombre incalculable de ballons. Ça a été très très physique, et puis bon, mais l'arbitre, moi j'en parle plus parce qu'écoute, ça devient récurrent. On sort avec, je crois, 3 ou 4 nez cassés. Dan Carlo a peut-être la fracture du plancher orbital. Bon, Greg, c'est un KO, bon, ça c'est différent. Mais ça a été dur, ça a été rude. Et puis non, ils nous ont pris de par la qualité de leur équipe, hein, tout simplement. Je pense qu'ils étaient meilleurs que les Dragons sur ce match-là. Et. Il y a deux ou trois occasions d'essai où Dimitri s'arrête à presque à un mètre de la ligne. Dan Carlo aussi. On peut revenir à 14-10 à un moment donné. Ça peut tourner. Hein. Mais malheureusement, il y a eu ce Sean Long qui nous fait un 40-20 qui nous fait mal. Et ça a été très difficile.
Tu viens justement de citer trois joueurs de grande qualité de l'FC. Ces trois recrues, Fitzgibbons, O'Malley et Sean Long. Alors est-ce que le problème justement concernant les Dragons vient bien à ce niveau-là ? C'est-à-dire que nous, au niveau recrue, on n'est pas encore... vraiment très très rassuré sur ce qu'ils pratiquent, du moins pas très content de leur jeu et de leur performance. Est-ce que justement le mal n'est pas là? On voit les équipes qui recrutent à tour de bras et qui recrutent des joueurs de grande qualité qui sont bien dans leur crampon, et puis chez nous ça couine.
Je crois pas qu'on puisse reprocher grand chose à Dance Johnson quand même, quand on voit un peu le travail que le garçon effectue sur le terrain après près de 50 plaquages par match. Même en attaque, il s'investit. Bon, Dallas, il y a pas de souci. Walker, malheureusement, un problème important au cervical. Et le troisième, c'est ça. Bon, mais ça, il a dû être marqué un peu par cette histoire en Angleterre, cette bagarre à la d'entrée. Il faut pas oublier qu'il est jeune. Mais bon, après, il faudrait un peu qu'il mette le casque et qu'il en voit un peu plus, hein, quand même.
Oui, ton avis?
Moi, je suis pas trop d'accord avec Olivier. C'est vrai que bon, il mérite la victoire, mais c'est vrai qu'on n'était pas trop bien en place. Mais je trouve qu'ils ont beaucoup triché. Hein. C'est vrai, ils ont beaucoup triché. Quand on voit Sean Long qui toute la partie parle à l'arbitre en permanence, que ce soit à chaque mêlée, à chaque coup franc, à chaque tenue, il est tout le temps à côté de lui en train de le bassiner. Et en plus, ils ont beaucoup triché. Ils ont fait beaucoup de fautes. Hein. Ils n'ont pas été beaucoup pénalisés. Mais bon. Partant de là, c'est vrai qu'après on peut pas jouer et déjà qu'on n'a pas trop le moral. Voilà, on a eu les dragons, les pauvres. Bon.
Voilà. Oui, bon, vu du bord de touche, on sent quand même une certaine impuissance à l'heure actuelle dans cette équipe, parce que quand même les occasions ont été là. Je vois Carlo par exemple qui, je comprends pas Carlo, il a eu un problème de perception. Il était en fait à 20 cm quoi, il a plus qu'à allonger la main. Ouais. Il a essayé, bon ça c'est incompréhensible, bon mais ça peut arriver. Seulement ce sont des fautes qui, dans un contexte différent, bon on peut en parler d'une manière un peu plus décontractée, mais aujourd'hui chez les Dragons, ce genre d'erreur immédiatement provoque a des effets très importants sur le rendement de l'équipe. Et c'est vrai que l'essai de Carlo par exemple, s'il le marque, ils sont à égalité. Bon, ça rééquilibre les choses en début de match. Bon, il y a eu aussi le vent qui finalement a été favorable aux uns et puis aux autres, mais que je pense Hull a mieux utilisé, parce que d'abord
c'est paradoxal quand même,
oui, mais ils l'ont mieux utilisé parce qu'ils étaient dans le contexte d'une équipe qui mène, qui a le score, qui avait su prendre le score avant de jouer avec le vent, et qui elle a géré tranquillement la deuxième mi-temps. Donc moi je pense que il y a eu beaucoup plus de maturité dans la conception du jeu du côté de Hull que du côté des Dragons samedi. C'est le sentiment que j'ai eu.
Ouais, allez. Ouais.
Moi, sur ce que j'ai vu, on a été battu quand même physiquement. On a voulu leur imposer l'épreuve physique, ce qu'on fait chaque fois, mais avec un jeu trop simpliste à mon goût. Hein. D'envoyer chaque fois, après le demi de tenue, un type qui arrive lancé, qui va péter contre 3 ou 4. C'est pas M. Guiraud. Et je veux dire, les joueurs se sont usés. La preuve, c'est que non seulement on ne traverse pas, on ne joue pas dans leur dos, ça fait que derrière, on ne peut pas attaquer. Et non seulement on ne traverse pas, mais le nombre de blessés qu'on a eu, ça vient aussi de ça, parce qu'on va se fracasser contre ces types qui nous rendaient 10-15 kilos chacun. Hein.
Alors, si on ne traverse pas, est-ce que justement on va s'adresser aux avants? Est-ce qu'il y a une perte de vitesse, manque de puissance en ce moment chez vous? Il y a un passage à vide, qu'est-ce qui se passe? Alors, eux, ils étaient très forts.
Non, je ne crois pas qu'il y ait une perte de vitesse de notre part. Je pense que on n'a pas su jouer en première mi-temps comme nous avait demandé l'entraîneur, c'est-à-dire avec beaucoup de soutien, aller un peu en dehors de cette ligne des trois premiers qui montent très vite et d'éviter un peu ce bloc en jouant à plusieurs quoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas su, comme on a fait en première mi-temps contre les Crusaders, d'éviter un peu ce bloc au milieu qui nous a fait mal quoi. Et après à partir de là, que c'était bon, c'était vrai, c'était contre le vent, on avait la sensation qu'on était contre le vent, qu'on n'avançait pas, que ça a été vraiment difficile en première mi-temps. Et après en seconde mi-temps, c'était un peu mieux, je trouve que c'était un peu mieux, on a avancé grâce au vent, mais voilà quoi, après on n'a pas su concrétiser les occasions qu'on a eues.
Et Bruno, Hervé, René, on n'est pas habitué, c'est vrai, à voir les avants être aussi malmenés, je dirais.
Il y avait peut-être aussi une petite revanche par rapport, on se souvient du match du 15 août dernier, Dragon Catalan LFC à Béziers, exact, où c'est vrai que la fin de partie avait été très rude, très physique. Les Dragons avaient ce jour-là pris le dessus.
C'est vrai.
Et je pense que du côté de LFC, certains s'en souvenaient. On l'a vu quand Jaja, chaque fois que Fakir prenait le ballon, mais il y avait beaucoup d'agressivité, surtout les avants aussi des Dragons Catalans. On a senti vraiment une équipe anglaise qui a pris le dessus physiquement et devant, qui a fait reculer les avants en Catalan, qui nous a marché dessus. Et puis autour de tenue, ça a rayonné. Une meilleure gestion aussi du vent, du jeu au pied, il n'y a pas eu photo dans ce domaine-là. Et puis c'est vrai que les Dragons Catalans, une fois de plus, ont pêché dans la finition. Il y a beaucoup de matchs comme ça qui cette saison auraient pu tourner à l'avantage des Dragons. On l'a vu à Warrington, il manquait pas grand-chose en première période, et puis après en seconde période, et bien les Dragons s'écroulent, accusent le coup. C'est vrai que il n'y a pas une bonne dynamique, une spirale de défaite. Donc, et puis j'ai l'impression qu'il manque aussi quelqu'un pour, qui est capable de faire relever la tête à tous ces garçons quand, quand ça ne va pas. Voilà, le patron qui, dans l'organisation, manque, ça on l'a dit, on l'a écrit, mais qui manque aussi peut-être dans ces moments-là quelqu'un de fort, de plus fort sur le terrain pour pouvoir faire relever la tête des garçons, quand, même s'il y a 12 points de retard. On a déjà vu par le passé les Dragons revenir à Wigan, ils se sont imposés, ils avaient 18 points de retard, donc là ils accusent plus facilement le coup.
Cette année, par contre, Thomas Bosc m'a confié dernièrement que quand vous encaissiez un essai, voire deux, évidemment, ça se complique encore plus. Là, mentalement, c'est très très difficile de revenir, alors que l'année dernière, par exemple, voire il y a deux ans, ça se gérait un peu mieux. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, Sébastien Raguin?
Ouais, c'est sûr que quand on prend des essais, c'est compliqué après de revenir quand le trou est fait et que l'autre équipe est en confiance. Contrairement, des fois, quand je me souviens à Perpignan cette année, on menait à un moment donné et puis on les a laissés revenir. Et puis finalement, c'est nous qu'on est dans la tête dans le seau, et finalement après, c'est eux qui gagnent le match.
Mais qu'est-ce qui se dit là quand on est dans cette mauvaise spirale de défaite, qu'est-ce que vous dites là, vos entraînements, notamment hier par exemple, dans quel état d'esprit on peut arriver avec le sac et discuter ensemble, qu'est-ce que vous en êtes où?
Nous, aux entraînements, bon, on essaye de se mettre un peu de peps, de donner de l'envie, de se mettre ensemble, de travailler dur. On travaille dur et c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, ça se retranscrit pas trop sur le terrain et on en est conscient, et même pour le public ou pour tout le monde, et c'est ça qui est désolant un peu. Donc, non, moi je pense que à des moments, l'an dernier ou il y a deux ans, on prenait un ou deux essais de retard, on avait quand même ce Green Shield ou Mog, enfin des types qui pouvaient faire un truc individuel, qui à tout moment, petit plus individuel qui nous faisait avancer, quoi. Et soit on marquait, soit ça reboostait tout le monde et ça nous donnait beaucoup de peps, quoi.
On parlait de l'absence de Greg Bird, c'est facile de revenir dessus, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il manque quand même, comme disait Bruno, un patron qui mette un coup de cravache à un moment donné quand tout fout le camp, quand c'est nécessaire?
Greg Bird, personnellement, moi, il parlait pas trop souvent, quoi. C'était surtout par son talent qu'enfin, à des moments, un contre un, il pouvait passer. Donc après, c'est vrai que ça suivait. Donc c'est vrai, mais après, bon, voilà, quoi, c'était pas un meneur d'hommes par sa parole, quoi.
D'accord. On a quand même perdu. On a quand même perdu aussi le pilier Riles. Il faut en parler parce que ce garçon, il a du talent jusqu'au dernier match qu'il a fait encore. Il a été extraordinaire. Bon, beaucoup l'ont critiqué parce qu'il avait une façon de jouer différente. Peut-être pour sa première année aussi qu'il arrivait. Alors, on manque énormément de puissance devant cette année. Un peu tout le monde nous bouscule, il faut être honnête. Hein. Devant, un peu tout le monde nous bouscule. Il y a peut-être des équipes encore. On va voir Salford quand ils vont arriver. Alors, on s'inquiète un peu, nous, les supporters, c'est vrai. Mais c'est pas du fait parce que vous ne jouez pas. C'est cette impuissance que vous avez à prendre le dessus. Voilà, à prendre le dessus sur les autres équipes. Et ça nous inquiète un petit peu. Alors, Bird, on va pas en parler tout le temps. Bird, on l'a accueilli parce qu'on a eu la chance, il faut dire, de la chance extraordinaire. La preuve, c'est qu'il n'est pas revenu, d'ailleurs. Hein. Il est resté chez lui. Hein. Il n'avait pas envie de revenir, ce garçon. Mais aujourd'hui, Riles nous manque. Moi, j'ai l'impression que Riles nous manque. C'est vrai, les blessures, hein. On va pas revenir sur...
Bruno, pas d'accord. Hein. Tu n'es pas d'accord, on n'en bouge pas d'accord. Mais bon, écoutez, c'est bien, on peut lancer le débat. Hein.
Donc, moi, j'ai plus l'impression, en fait, pour avoir vu les Dragons catalans à Murrayfield, face à Castelfort, les Dragons catalans ont été meilleurs que l'adversaire ce jour-là, que l'équipe de Castelfort devant. Et ensuite, par contre, tous les essais ont été concédés sur du jeu au pied adverse. Donc c'est vraiment derrière que ça pêchait. Et c'est pour ça qu'à l'issue de cette rencontre, je me souviens bien que les avants râlaient. Parce que par rapport à Wellington, où il y avait, c'est vrai que devant c'était passé au milieu, là ils avaient vraiment serré les rangs. Et c'est sur les extérieurs qu'ils avaient pris 4 essais sur du jeu au pied qui était vraiment inadmissible à ce niveau. Et puis sur Riles l'an dernier, moi j'ai vu Jason Riles bon à St. Helens lors du dernier match de la saison. Quoi.
Il s'est vendu les 3 derniers matchs pour les playoffs.
Il a été blessé en début de saison. Il a pris ses ballons. Mais bon, c'était pas le guerrier. Il y avait 2-3 joueurs qui le tombaient. Moi, j'ai vu Jason Wright. Bon, en fin de saison, quoi, pas avant.
Je rejoins Bruno, moi, ce qu'il dit sur le paquet d'avant. Je crois qu'on n'a pas grand chose à se reprocher. On avance peut-être moins que les années précédentes, mais devant, le boulot est fait. C'est la transformation du jeu. Quand les avants vont péter, quand il faut que ça accélère, que le 6 et le 7 impulsent, que les centres arrivent, là, s'il n'y a pas de 6, s'il n'y a pas de 7, que ça impulse pas, que les centres y dorment, je suis désolé, chaque fois qu'on a un qui traverse, tu n'as aucun soutien.
C'est pas que les centres dorment, c'est qu'on n'a peut-être pas les jambes nécessaires pour pouvoir justement réveiller tout ça. Quoi,
oui, non un peu manque de jambes, mais tout, hein. Il faut que le 6 et le 7 leur donnent des ballons, des bons ballons.
Qu'ils alimentent, ouais, bons ballons, donc, effectivement.
Pas de vitesse dans les demi, derrière, forcément, c'est plus difficile. Hein. Je crois que Seb, en tant que centre, toi, peut-être tu pourrais nous en dire un mot sur la transformation du jeu entre justement les avants et vous les trois quarts.
Entre les avants et les trois quarts.
Ouais, je me sens visé. Ouais.
Tu peux commencer à critiquer les copains.
J'ai pas de canne, oui. Les cintres, pas de jambes, bon, c'est sûr. Je suis pas Usain Bolt, c'est sûr. Ouais, ben la transformation de jeu, c'est compliqué. Enfin, tout est compliqué cette année, on va dire, puisqu'on est dernier. Mais c'est surtout sur les timings des courses qu'on a et sur les lignes qu'il faut avoir sur les défenses. Donc voilà, ça part de communication et donc il faut qu'on parle plus et on travaille encore à l'entraînement pour pouvoir améliorer tout ça.
Oui, bon, mais moi je pense que quand même globalement c'est le système offensif qui des Dragons qui est le plus défaillant de tous les systèmes qui puissent exister, parce que quand même, bon, que ce soit le paquet d'avant, que ce soit les trois quarts, il y a eu dans le match de samedi, en dehors, si on évacue tous les problèmes d'arbitrage, etc., qui sont quand même une certaine constante avec laquelle il faut faire. Et je pense que si on écoutait les autres, ils disent exactement la même chose. Moi, je pense que c'est dans le domaine offensif où les Dragons cette année ne produisent pas le jeu qui leur permette de passer l'adversaire. Et c'est ça le grand problème des Dragons. Donc, on voit des avants. Ce que j'ai pu constater, c'est que quand même, à mon avis, il y a un certain manque de stabilité dans cette équipe. Ça tourne tout le temps. Alors je comprends. Oui, non, mais je parle sur un match lui-même. Moi, je considère qu'il faut quand même que pour une équipe trouve son rythme de croisière, il faut qu'elle soit stabilisée dans ses postes, dans ses schémas. Et si on change tout le temps les joueurs de poste, de position, rentrer, sortir, etc., bon, tout ça, ça ne crée pas la sérénité et la confiance dans la durée qu'il faut pour faire basculer un match. Les matchs de Super League, on le sait, ça peut se jouer des fois dans les deux ou trois dernières minutes. On a gagné même des matchs dans les 30 dernières secondes. Donc il faut tenir jusque là, mais encore on peut toujours faire basculer. Là le système des Dragons, il est déjà émoussé bien avant la fin des matchs. C'est ça le grand problème. Les autres années, quand les Dragons gagnaient, ils ont arraché des matchs sur la corne. Ils en ont perdu sur la corne, mais il y avait une indécision. Là, on sait en gros 20 minutes avant la fin que l'affaire elle est déjà réglée, quoi. En dehors de miracles. Donc, je pense que quand même, et le discours que vous avez de travailler, etc. Bon, tout le monde travaille, vous aussi. C'est pas quelque chose qui est mis en doute, mais je pense quand même qu'il y a des points. Le jeu au pied, qui avec, par exemple, samedi, avec le vent qu'il y avait, et vous êtes du pays, bon, ben, c'est des coups de pied rasant, pas très haut, et vous avez foutu des chandelles toute la soirée, alors que Hull, qui sont quand même des gens qui respectent certaines consignes, ils ont eu un jeu au pied adapté aux circonstances. Alors tout ça, je pense quand même qu'il faut quand même en parler. Oui. C'est pas la remise en cause de qui que ce soit, mais c'est des constats qu'on est obligé de faire. Les autres équipes, je trouve, s'adaptent beaucoup mieux cette année à votre jeu que vous au leur. C'est ça le grand problème. Donc voilà. Et c'est pas une question d'individu. Moi, je pense que c'est le système dans son ensemble qui est pas en place.
Hervé, ce jeu au pied, donc on critique en permanence, qui est défaillant, qui est même pathétique, parce que dimanche, moi, je le trouvais pathétique, sincèrement. Du moins samedi soir, c'est ton avis aussi ou on en est où là?
Attends, le jeu au pied, lequel jeu au pied? Moi, je suis désolé.
Il a décidé que je parlais pas ce soir.
Non, mais tu vas parler. Tu as Baye. Qui tape au pied, tu as Bentley qui tape au pied, tu as Gigot qui tape au pied, tu as Boxley, tout le monde tape. Alors, est-ce que c'est des consignes d'entraîneur de allez-y, tapez au pied, parce que finalement, ils sont assez mal donnés, ces coups de pied, pour certains, hein, parce qu'on en donne beaucoup quand même. Alors, à un moment donné, moi, je me pose des questions.
Qui commande
là-dedans, est-ce que c'est Boss qui doit taper? Est-ce que c'est Baye qui doit taper? Est-ce que c'est Bentley qui doit taper? On comprend plus rien, en fait.
Dragon lève le doigt souvent pour taper, mais ils s'en foutent royalement, ils veulent pas.
On va passer la parole à M. Giro.
Hervé. Grand technicien de la charnière.
Ah oui, grand technicien. Non, c'est vrai que le jeu au pied, c'est quelque chose de très, très, très important dans notre rugby. Et c'est vrai qu'il est laissé un peu à l'abandon. Lorsqu'on connaît aussi le stade Brutus, justement, avec le vent qui souffle, l'importance de ce jeu au pied, la possibilité de prendre de superbes touches, je trouve que c'est bien dommage. Je reviendrai à ce que disait Louis tout à l'heure. C'est vrai que moi aussi, je ressens un manque quand même de stabilité au niveau de cette équipe. Les changements se font sans arrêt et pour un joueur, c'est pas du tout facile de trouver ses repères. C'est vrai que l'an dernier, quand même, il y avait des papas comme Jason Crocker et Jason Rice. J'y reviens. J'ai encore eu la chance de voir Jason Rice la semaine dernière avec les Roosters. Je peux vous dire que c'est encore un papa. Il prend du ballon, il avance, il vient soulager. Il vient de faire encore deux matchs excellents. Et c'est vrai que, oui, peut-être papa chez lui, mais bon, c'est une référence. C'est peut-être nous qui n'avons pas su l'adapter. Je n'en sais rien.
Hervé a quand même fait un reportage dans un journal australien où il disait qu'il a passé une année sabbatique en Roussillon, quand même. Hein.
Ouais, mais bon.
Il n'a pas dit tout à fait comme ça.
Voilà.
Il a pas dit tout à fait comme ça.
On fait toujours dire ce qu'on veut.
On l'a interprété comme ça, mais il n'a pas parlé. Non, moi je voulais revenir sur le match. Bon, c'est vrai qu'on est loin d'être brillant, mais on a eu deux actions dans la partie, une en première et une en deuxième mi-temps, où là, on aurait dû scorer et ça aurait peut-être pu changer la face des choses. Une première sur une attaque côté gauche, où Sébastien, tu donnes pas à Vaccari sur la gauche qui est démarqué, et ça aurait pu permettre, non mais c'est vrai, et ça aurait pu permettre à Vaccari de mettre en évidence ses qualités de vitesse, parce que, à part rentrer dans l'équipe comme on lui fait faire, on le voit pas bien dans son rôle d'ailié. Et là, il avait l'occasion de marquer. Ça, c'est en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il y a Carlo qui doit aller marquer. Bon, il rentre dans le type, alors qu'il a encore deux bonhommes à sa droite pour marquer. Il a pas donné le ballon. Il a voulu aller marquer tout seul. Il n'a pas pu sortir les bras. Ces deux actions nous ramènent à 10 à 12 points.
Et regardez, après tous ces empressements, font qu'on se retrouve avec un vélo qui n'est pas vissé, le pauvre Féfé. les quatre pattes en l'air. Non, je crois qu'il faut régler tout cela rapidement.
Là, on va être sûr que le 13 va passer à la télé.
Oui, c'est d'ailleurs sur le site internet, je crois, de la Super League, c'est ça. On voit David Ferriol se casser la figure du vélo.
On va le voir sur toutes les chaînes nationales.
Il est bien placé pour avoir le maillot jaune.
Il l'a fait d'ailleurs.
Mais alors, les gars, une question. Comment peut-on passer d'un rugby enlevé, fait de panache donc en coupe chez les Crusaders, à un rugby prévisible et pas très créatif la semaine d'après? Comment on peut basculer si vite d'un état à un autre comme ça?
Mais comme je l'ai dit en tout début, je pense qu'on n'a pas donné peut-être la... machinalement, on n'a pas donné le même effort de travailler ensemble, d'arriver à donc avec du soutien, que ce soit intérieur ou extérieur. Par contre, ce qui a été très bien fait en première mi-temps contre les Crusaders, ça arrivait de partout. On était à plusieurs, 1, 2, 3 en soutien. Il y avait des passes, il y avait des beaux trucs. Bon, est-ce que c'est le vent qui a fait que ça nous a calmé? D'entrer contre le vent, ça nous a calmé, et après on n'a pas pu, avec 22 points de retard, revenir. Je sais pas quoi.
Alors, est-ce qu'il y a un état d'esprit complètement différent quand on aborde un match de cup, et notamment en Angleterre où on a moins de pression par rapport au public peut-être, et un match de championnat, ça s'aborde forcément différemment?
Les matchs de cup, c'est éliminatoire, donc c'est sûr que c'est différent.
Et vous lâchez tout là visiblement au cours de match de cup. Première mi-temps, Bruno, combien d'essais a marqué les Dragons chez les Crusaders? 6 essais? Comment si on peut lâcher les chevaux comme ça, ouais, puis après être bridé?
En deuxième mi-temps, il revient à égalité. Quand même. Donc, bon,
est-ce que l'esprit est différent, en fait?
Non, l'esprit n'est pas différent. Je veux dire, on est dernier au classement. Nous, on ne veut pas finir dernier, bien sûr. Donc, tous les matchs, maintenant, c'est des matchs de cup. Hein. Il faut qu'on gagne pour remonter au classement. Donc,
Bruno, tu étais, toi, donc, chez les Crusaders. Tu as vu, évidemment, le match contre l'FC. Quelle différence est la plus palpable entre ces deux matchs?
Physiquement, c'est vrai que les Crusaders n'ont pas le même paquet d'avant que l'FC.
Ouais.
Il n'y a pas photo déjà. Et puis il y a Sean Long aussi qui a bien rayonné autour du tenu. Donc c'est vrai. Et puis il y a eu peut-être ce brin de réussite qui fait que quand les Dragons ont une petite embellie, comme a précisé Alain, les trois occasions qui en début de rencontre, si les Dragons les mettent au fond, c'est pas du tout le même match. Ouais. Et c'est vrai que chez les Crusaders, eh bien, ça plutôt sourit lors des premières 30 minutes jusqu'à la sortie de Casey Maguire.
Voilà. Et vous aviez des ambitions dès le début du match chez Crusaders? On vous a dit, bah, écoutez, lâchez-vous, on tente le tout pour le tout, il faut gagner, il faut écarter des ballons, il faut prendre des risques, avoir du culot, ou pas vraiment?
Non, pas vraiment. C'était notre système de jeu en lui-même, c'est tout le temps pratiquement le même, match par match. Bon, après, ça change par rapport à l'adversaire, ou c'est qui défend, ou des faillances ou pas. Et non, je pense que sûrement, bon, c'est inconsciemment, mais c'est match de coupe, c'est la motivation, elle est sûrement, enfin, pour moi quand même, c'est surmultiplié, quoi. Je sens que c'est éliminatoire.
T'as pas le choix.
Ça te donne du plus, quoi.
D'accord.
Après, mais ça n'empêche pas qu'après un championnat, même, on donne tout à fond. Mais bon, de savoir que c'est en plus un truc éliminatoire, quoi, c'est...
Et puis c'est vrai que ce jour-là, chez les Crusaders, une belle charnière qui démarre bien la rencontre avec Thomas et Casey McGuire. Pendant 25 minutes, ouais, il y avait vraiment, enfin, un bon 7, un bon 6, Jean-Philippe en 9. Il y avait vraiment un axe qui était bien dans ce match avec Dallas Johnson. Et puis à la 25e, on a vraiment senti quand Casey McGuire est sorti, ça a commencé à pêcher un petit peu partout, quoi.
Alors, je sais pas.
Donc pour
votre fond,
une saison, il y avait vraiment 9,
7, 6. On en revient exactement à ce qu'on disait à la dernière émission. Lorsque Cyril Gossard nous disait que Seb n'était pas là, il nous disait que quand Seb est sur le terrain, quand ils défendent tous les deux côte à côte, ils défendent les yeux fermés. Casey McGuire a fait un grand match, un grand début de match aux Crusaders. S'il est sorti, ça a désorganisé l'équipe. Et puis c'est le petit maillon qui manque et qui fait que la machine s'enraye. Et parce que Casey a énormément manqué contre elle aussi. C'est pas dit que si Casey joue à la mêlée avec le niveau de forme actuel qu'il avait, le match aurait été peut-être tout autre.
Hein. Est-ce que les joueurs ne se sentent pas plus libérés à l'extérieur avec cette pression en moins de jouer devant son public, de la peur de décevoir, la peur de perdre une nouvelle fois?
Non.
Pas vraiment.
Moi je pense pas. Non. Même c'est mieux de jouer à domicile avec un public derrière soi que d'aller là-bas. Hein.
Un public qui ressemble de plus en plus, malheureusement, voilà. À part les fidèles, on savait très bien que le public était versatile, que ça risquait à un moment donné peut-être de changer de physionomie.
Oui, moi je voulais revenir un peu sur Sean Long, parce que j'ai quand même je l'ai suivi pendant un moment, et le problème de Long, c'est que je n'ai pas bien compris pourquoi il n'y avait pas un marquage individuel sur Sean Long, pardon, dans cette rencontre. Parce que Sean Long a joué pratiquement 60% du match en position de deuxième centre entre le centre et l'ailier. C'est-à-dire qu'il essaie de travailler son paquet d'avant sur le 1, 2, 3, 4, voire même 5e tenue. Et lui, il n'intervenait que sur... lorsque le jeu quittait le ras du tenu, il intervenait en premier relayeur. Donc, il s'est fait quand même bien oublier dans la construction du jeu, parce que je pense qu'il n'en a plus pas l'envie, mais... Bon, il se gère différemment.
Il était de retour aussi, il était blessé.
Oui,
il a
géré son match tranquille, mais il n'a jamais été inquiété. Parce que en défense, il s'est noyé dans la ligne défensive où il n'a pas eu à travailler.
Exactement.
Et en attaque, il a laissé faire son paquet d'avant. Et lui, il est intervenu au bout du 3e, 4e, voire sur le 5e tenu, et en bout de ligne. Et là, il a fait la différence. Donc, c'était tellement clair que je ne comprends pas comment on n'a pas déterminé dans le système défensif des Dragons quelque chose sur lui. Parce qu'on le sait, ça, quand même. Est-ce qu'il y avait...
Il n'y a pas un plan anti
voilà, est-ce qu'à un moment donné, pourquoi un garçon comme ça était laissé, livré tout seul pour pouvoir manœuvrer, quoi. C'est ça le grand problème.
Je ne sais pas comment on fait pour marquer un joueur.
Ah oui, mais bon,
nous, c'est une ligne défensive. C'est une ligne défensive, elle est organisée comme ça. On ne peut pas mettre un joueur... pile sur lui et qui reste sur lui.
Oui, mais bon, ça, chaque équipe s'adapte aussi. Il y a des fois des joueurs qui font marquer plus que d'autres. Toi, tu t'en rappelles pas, mais quand tu as débuté, tu étais celui sur lequel on te pétait dessus. Donc, il le savait que tu étais
jeune. Un spot.
Voilà, hein, voilà. Donc, il y a quand même des... La tactique et la conception des matchs, vous regardez assez de vidéos, vous connaissez. Voilà, oui.
Mais... Ça ne m'a pas marqué. Hein.
C'est déjà le meilleur, ouais. Ouais.
Non, mais si tu veux, moi, quand on dit que Long a été dans la construction du jeu, non, il a été dans la finition du jeu de Hull. C'est pas pareil.
Louis a raison. Il aurait fallu peut-être spotter un peu plus Sean Long avec les piliers et lui
rendre. Il était loin, effectivement, au niveau défensif. Donc, pour aller le chercher, c'est un peu compliqué aussi, quand même.
Oh, tu sais, si tu veux pesquer un joueur sur un terrain, je pense que s'ils veulent vraiment le jouer, ils y arriveront. Mais non, c'est vrai qu'on n'a pas assez. Pour moi, on n'a pas assez spoté Sean Long sur ce match-là.
Jean-Marie.
Ouais, parce que eux, de leur côté, quand ils ont fait rentrer le 22, je veux dire, ils ne s'est pas gêné pour charger deux fois Bosque à vide,
hein,
et pour lui mettre la pression, hein, chose qu'on n'a pas su faire, nous, de notre côté.
Donc on va repartir sur une récurrence à l'arbitrage, quoi, mais bon,
ouais, voilà,
après, on va se faire traiter au paranoïaque, donc il ne peut-être qu'on l'arrête, mais
eux, ils ne se sont pas gênés,
mais c'est pénible,
ils
n'ont
plus le détruire. Et tu
c'est, encore assez, c'est encore assez grossier, quoi. Hein.
Pendant, on les a mis sur le reculoir, quand même, en seconde demi-temps. On n'a pas été capable de franchir, quand même, quelque part.
Exactement.
Pardon ? Bon. Non, mais c'est vrai, on les a mis quand même sur le couloir en seconde demi-temps. On n'a pas réussi à franchir la ligne. Mais qu'est-ce que vous voulez ? L'arbitre, là, on ne va pas en parler parce que bon, c'est fatigant de parler toujours d'arbitre. Ce n'est pas du tout la faute de l'arbitre si ce match on l'a perdu. Effectivement, il y a eu des décisions qui ont été prises bizarrement, hein, comme encore j'ai pas revu l'essai, j'ai pas encore revu l'essai où il arrache le ballon, le dernier essai de.
Il n'est pas faute, hein. Il n'est pas faute.
Non,
absolument pas.
Est-ce qu'il n'est pas?
Absolument pas.
Ah bon, alors là,
c'est pour en parler.
Là, si vous voulez, l'entraîneur, il a appelé le directeur des arbitres, et si vous voulez, normalement, il n'aurait pas dû avoir essayé, puisque l'avantage commence à partir quand il fait 5 mètres avec le ballon. Et là, il n'avait pas fait 5 mètres avec le ballon, quoi.
En plus, c'était pas une tenue de transition, en plus.
Non, non, le joueur avait fait en avant, et il a arraché de suite.
Sur le bord de touche, le délégué du côté du banc des Dragons, il n'y a pas eu de discussion sur cette affaire. L'arbitre de touche, tout le corps arbitral qui était présent au bord de la touche sur cet essai a constaté qu'il y avait eu arrachage de balle, quoi, à un contre un. Donc personne n'a remis en cause l'arrachage.
Non, c'est pas sur l'arrachage, c'est sur l'action. Sur l'action d'avant, si vous voulez, eu l'attaque, il tombe le ballon vers l'avant, Dan Carlo ramasse le ballon. Et là, il se le fait arracher. Mais sauf qu'il n'y a pas eu d'avantage. Il doit faire à 5 mètres. Donc, il n'a pas eu d'avantage.
C'est une règle qu'on découvre ce soir.
Après, exactement.
Après, moi, je ne suis pas d'accord avec René. Quand on voit les agressions qu'il y a eu en seconde mi-temps, quand on voit dans la Johnson, aux 50 mètres, se faire arracher la tête devant l'arbitre, et l'arbitre de touche, et personne ne dit rien, là, je ne suis pas d'accord.
Oui, une fois.
Non, mais c'est récurrent. L'arbitrage, j'ai dit, je veux plus en parler parce que je crois que le président gauche, d'ailleurs, en parle aujourd'hui dans le journal un peu, hein, que, de ce qui s'est passé samedi. On n'est pas sorti avec 4 nez cassés et une pommette à moitié fracturée s'il n'y a pas eu des plaques à jour. Mais les joueurs. Si Ferriol pète un câble à un moment donné du match, c'est qu'il se passe des choses et qu'à un moment donné ça suffit. On est quand même à la maison, il faut montrer qu'on a quelque chose dans le pantalon et bon, il faut arrêter, quoi. Il faut leur dire ça suffit à ces gars. Non, Rémi, j'ai pas raison.
Rémi, alors c'était plus.
C'est vrai que c'était plus dur, oui. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas à domicile comme ça, on n'avait pas, j'allais dire, reçu, mais c'est vrai qu'il y a eu des coups, il y a eu des. Mais même après, c'était de l'agressivité. Bon, c'était gratuit. Bon, ils ont le vice. Il y avait des petits coups de vice qui, ça, des trucs qui se voyaient, des trucs qui se voyaient pas. Mais bon, l'expérience de Fils Gibbon, Omélie, tout ça, ça pesait, quoi. Et, bon, après, c'est vrai que l'arbitre, bon, je vais pas, on peut pas en parler tout le temps. On le sait. Ça fait 5 ans qu'on y joue. Et c'est comme ça. Donc nous. Il y a 3 ans, on a réussi à finir 3e avec les mêmes arbitres. Donc, c'est pas les arbitres qui. On le sait, ils sont nuls contre nous et c'est comme ça.
Triste constat. Hein.
Moi, sur cette affaire, finalement, Bruno, quand il a parlé de l'an dernier, si on se rappelle effectivement le match de Béziers, on a oublié Béziers, que c'était peut-être le retour du match de Béziers. Voilà, parce qu'à Béziers, quand même, eux, ils avaient essayé de prendre les Dragons devant. Et ils s'étaient quand même fait drôlement secouer. Ils s'étaient fait secouer plus que vous ne l'avez été samedi, et d'une manière beaucoup plus nette, et ils avaient pris des points en plus.
Ce sont des professionnels quand même, Louis. Oui. De là à...
Non, mais à Béziers, je trouve que les Dragons les avaient beaucoup plus malmenés que ce que.
L'esprit de vengeance, on l'a pris comme ça quand même.
Non, c'est pas l'esprit de vengeance, mais il y a quand même un passif. C'est comme Wigan, ça se passe à Wigan. Ils ont toujours sur la patate. Le premier match qu'ils ont perdu ici, ils n'oublieront jamais ça.
Il y avait quand même 6 joueurs sur le terrain qui arrivaient d'horizons différents. Donc.
Et n'oubliez pas que le commentaire de l'entraîneur de Hull, Richard Agar, qui était assez intéressant, ils font partie des 8 premiers, donc qualifiables. Tous les 8, les 8 premiers clubs sont venus gagner à Brutus, donc pour eux, c'est une obligation maintenant de venir à Brutus. C'est ces commentaires-là qui font un peu. Qui nous font un peu.
Quand tu vas chercher la pression rouge, généralement, tu vas pour gagner. Donc,
voilà. Oui, mais c'est Brutus.
C'est mal.
Brutus, c'est Brutus.
Ça nous fait mal parce que c'est pas la lanterne rouge. Malheureusement, la réalité nous saute au visage.
Ici, il n'y en a qu'un seul qui a perdu ici.
C'est Salford. Malheureusement.
Non, Ulker.
Ulker. Ah, Salford, c'est samedi. Tout à fait. Tout à fait, Bruno.
Oui, bon, il se passe des choses positives malgré tout, puisqu'il y a des recrues qui sont annoncées. Pas officiellement, mais a priori.
La parole au grand chef, c'est lui qui a lancé ça sur le forum.
Voilà, il va nous expliquer ce qu'il en est vraiment.
Alors, j'ai été le premier
info
informé.
Info intox.
Je sais pas, on verra ça plus tard. Le premier informé par un représentant anglais qui habite pas très loin de Castlefort, qui m'a annoncé que le demi de mêlée. Comment il s'appelle déjà celui-là ?
Brent Sherwin.
Ouais, Sherwin aurait signé au Dragon. Voilà. Alors, on aurait appris ça. Non,
tu as dit a signé au Dragon.
Non.
Non, mais à moi, il m'a dit
a signé. Aujourd'hui, Est-ce qu'il a ou il n'a pas signé? À mon avis, il n'en est pas loin. Il n'a pas signé. Hein.
Mais t'as pas toutes les informations.
Il aurait signé pour quelques mois avec une option, si j'ai bien compris, hein, parce que je comprends très mal l'anglais, avec une option pour une année supplémentaire. Voilà. Alors, autre information, il n'aurait pas joué en cup encore. Oui. Donc il n'a pas joué en cup, donc il pourrait jouer en cup. Voilà.
Bruno, tu
sais pas, on va y poser la question.
Brent Sherwin, ça fait un mois et demi à peu près que les Dragons catalans sont dessus. Ah. Il est en fin de contrat, c'est la troisième saison à Castleford. Il est en fin de contrat avec les Tigers. Et les Dragons, bon, ils sont dans la quête d'un demi depuis un petit moment, mais c'est vrai que c'était pas leur cible privilégiée par rapport à son âge, 32 ans. Et bon, vu la prestation qu'avait fait Sherwin contre les Dragons à Murrayfield, où il a inscrit deux essais face aux Catalans, il y a trois semaines, tout début de mois, ça a peut-être fait monter sa cote. Le fait que Finch ne puisse pas venir aussi.
L'année prochaine.
Les Dragons, le problème, c'est qu'ils sont obligés de signer quelqu'un pour la Cup avant lundi 14h. Et si, bon, s'ils veulent le faire jouer pour la Super League, si ce week-end, Sherwin veut jouer contre Salford, il faut le faire signer avant, vendredi, 14h aussi. Mais disons que pour l'instant, le seul souci pour les Dragons catalans, Sherwin est d'accord, les dirigeants sont entendus sur le salaire, sur la durée, sur probablement le renouvellement. Le seul problème, c'est que les Dragons veulent avoir une preuve écrite comme quoi Sherwin peut disputer effectivement la Cup avec eux. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas joué, mais est-ce que le fait qu'ils soient dans le squad des 25 suffit ou pas? Et les Dragons préfèrent se prémunir. Ça sera peut-être la première surprise de la RFL à la rencontre. Donc ils préfèrent avoir vraiment une preuve écrite avant de signer Sherwin. Mais bon, le temps presse.
Bon, Sherwin, que les joueurs connaissent bien.
Rémi, puisque... Sherwin, vous l'avez croisé il y a pas longtemps à Murrayfield.
Oui, à Murrayfield, oui. Il nous a fait du mal avec son jeu au pied. Et puis une interception. Donc il a coûté à peu près pratiquement tous les points du match. Donc ouais... C'est un joueur qui arrive de NRL il y a deux ans, je crois, à Castleford. Non, c'est un beau joueur depuis qu'il y est, quand même, avec Randy Chase. C'est la charnière, quand même, qui tient la route à Castleford.
C'est vrai que ce jour-là, ils avaient fait en plus une mi-temps chacun, quoi.
Ouais.
Chase a prédominé sur la première et.
C'est un joueur complet, visiblement, qui est un bon organisateur de jeu, gros défenseur.
Un gros organisateur, visiblement, hein, quand même.
Ouais.
Bien dans l'organisation,
bon
dans
la finition. Bon jeu au pied, c'est important, ça.
Ah. Nous quand on l'a joué, c'était notre spot. C'était un de nos spots.
Il est sorti vivant du terrain.
Comme tous les demi à peu près dans le championnat.
Exactement.
D'accord. Et un bon jeu au pied, c'est ça, Bruno, hein?
Oui, un bon jeu au pied. C'est vrai que sur les 4 essais, il y en a 3.
Vous la rassurez.
C'est Sherwin qui les amène et Chase l'autre. Mais il y avait une belle complémentarité, comme on l'a précisé, Brent Sherwin, Randy Chase. Et bon, les Dragons auront presque un mois pour le mettre là-dedans. Mais je pense qu'un garçon quand même qui a effectué près de 200 matchs à NRL avec les Canterbury, 191, 192 matchs, 3 ans de Super League. Lui, l'acclimatation normalement Super League, elle est faite. Il va pas falloir que ce soit encore un Australien qui s'y habitue. Mais maintenant, il va falloir qu'il se fonde dans le collectif, quoi.
Alors, c'est un point positif aussi qui en engendre de négatif. Un garçon comme William Barto, maintenant, risque de faire banquette plus longtemps que prévu, peut-être, non, aussi. Non, votre avis?
Je sais pas. J'ai entendu parler d'un petit souci au niveau de William. Alors, je sais pas si c'est des raconteurs ou pas. Non, mais apparemment, il aurait eu des difficultés après ce match de Saint-Hélène où il avait joué à s'acclimater à la Super League, un peu des difficultés, une perte de confiance. Donc je sais pas si...
La perte de confiance, elle est légitime, comme a été celle de David Gouache qui a fait un match chez les Crusaders à l'arrière. Qu'importe, c'est peut-être pas son poste, il a fait à l'arrière, mais c'est le dur apprentissage aussi de la Super League, comme ça l'est pour Tony Gigot, qui là s'est heurté et s'est pris des monstres dans la tête, mais ils ont mis là il a joué à son poste, Tony, mais...
À Warrington, ils l'ont mis à l'honneur. Il faut être intelligent pour mettre Gigot au talon. Tu savais que Morley allait le spotter. Ça a été très intelligent. Pour détruire un joueur, on ne peut pas faire mieux.
Il a été spoté ce week-end alors qu'il était à la mêlée ou à l'ouverture.
Tu as ouvert la parenthèse. Alors là, il faut leur donner la palme de l'imbécilité. La plus totale à Walter, c'est je vais joindre Laurent avec Frisinous. Parce que faire jouer Gigot avec le rentron qu'il prend avec Morley, il sort un peu KO, ils le font rentrer au même poste. De nouveau, Morley le reprend.
Morley, il est venu dessus, il jouait à l'honneur, mais il aurait joué demi mêlée ou ouverture, il serait venu quand même dessus. Il est despoté.
Non, mais Stécie, qu'est-ce qu'il faisait qu'elle était chez nous? Il défendait à l'aile. Pourquoi tu fais jouer Gigot l'ouverture? Tu dis toi en défense, tu te mets à l'aile.
C'est Thomas qui. Il y a Thomas qui prend un côté.
Personne ne veut défendre alors.
Un coup, on le met au talon, vous n'êtes pas content. Un coup, vous le mettez à l'ouverture, vous n'êtes pas content. Le petit Gigot, qu'est-ce que vous voulez faire?
Le petit Gigot à l'ouverture, oui.
Oui.
Mais il défend à l'aile.
C'est-à-dire que moi, j'ai pas bien compris ce qu'il jouait. Parce que j'ai vu jouer à la mêlée aussi, à un moment donné. Ça peut être, je rejoins un peu ce que tu nous disais, Louis. Hein. Et en fait, on ne sait pas très bien où c'est qu'il joue. Mais pour en revenir aux autres, alors, le Barto, je ne sais pas. Est-ce que, bon, l'UTC a terminé. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont intégrer naturellement qui vont continuer à s'entraîner avec vous, comme Barthaud, Gouache. Est-ce qu'il y en a qui font ça?
Et là, on a commencé.
Simon, par exemple.
Simon, il y est aux entraînements. Il y a Tony, il y a William. Et après, qui c'est qui est venu aussi? Non? David, ouais, mais David, il se fait opérer de l'épaule, donc c'est foutu pour 6 mois au moins.
Et puis, de toute façon, il oui, puis il y a peut-être les duals qui vont se mettre aussi en place avec avec Toulouse en fonction des besoins, en fonction des besoins des Toulousains.
Comment des duals? On a tout le monde à l'infirmerie, tu veux qu'on envoie des jeunes là-bas à Toulouse? On en a besoin pour terminer la saison.
La possibilité a été entrouverte en début de saison par les Dragons et par les dirigeants de Toulouse qui se sont enfin mis d'accord, et ça c'est bien. Plutôt que d'avoir un Andrew Bentley qui joue pas, autant qu'il puisse faire quelques matchs de championnat.
C'est récent ça?
Ça a été mis en place cette année en début de saison. Quand
pour l'instant il n'y a pas eu d'échange en fait.
Pour l'instant il n'y a pas eu d'échange. Mais c'est vrai que Toulouse, je ne sais pas si Toulouse a beaucoup de casse. Peut-être Sébastien, tu le sais un petit peu plus que nous. Mais je n'ai pas l'impression que Toulouse qui réalise une bonne saison, ils sont cinquième. Tant que, pour l'instant, s'ils n'ont pas trop de casse, ils n'auront pas besoin d'avoir un garçon.
Fait le retour de Duport, ce serait quand même sympa aussi, hein, pour soulager un peu derrière. Hein, de temps en temps.
Ah, je sais pas.
Il a annoncé, moi j'ai vu ça sur Facebook, il discutait avec Dimitri Pello. Il a dit oui.
On parle pour l'année prochaine, là, non? On parle pour l'année prochaine.
Prochaine.
Ah bon, d'accord. Oui, non, mais voilà, je crois que ce garçon va revenir.
Moi, j'ai l'impression qu'on est déjà dans la saison prochaine, quoi. On est déjà un peu dans la saison prochaine.
Peut-être aussi,
oui. Je crois qu'il faut quand même être réaliste, quoi. Du côté des Dragons, on est tous conscients qu'il faut essayer de bien finir, mais on ne pourra pas quand même accéder à ce qu'on pouvait espérer les autres saisons, les play-offs peut-être, troisième position, etc. Donc il faut quand même gérer l'aspect sportif avec la coupe, parce que quand même c'est quand même un argument important dans la vie du club. Je pense que les Dragons peuvent accéder à une demi-finale. Voilà, en demi-finale, tout est possible sur un match. Donc voilà, on est voilà. Donc je crois que la saison sportive en tant que telle n'est pas finie, mais déjà on est dans les stratégies pour ça peut pas continuer comme ça les Dragons. Donc il est en train de se passer la préparation de la saison prochaine, quoi. C'est ça. Donc tout ce qui se dit sur les jeunes, le recrutement, bon, en fait on est déjà dans les, on va finir mieux peut-être la saison, mais on prépare déjà la saison prochaine. On a compris que celle-là, il y avait une grande partie qui était déjà terminée et qu'il fallait passer à autre chose, quoi, à tous les niveaux.
Et c'est vrai que la prochaine saison, il vaut mieux qu'il la prépare bien avec 4 entraîneurs en fin de contrat, en comptant Rodneo, et puis 14 joueurs aussi en fin de contrat. Donc ils ont intérêt à bien préparer.
Moi je pense qu'on est plus dans cette logique à l'heure actuelle que dans une logique de dire bon, on peut recruter 5 joueurs pour faire un match, mais ça, c'est pas ça. C'est le long terme qui prime, et là je crois que les dirigeants des Dragons s'inscrivent dans cet aspect des choses, quoi.
On en parlera dans la deuxième partie peut-être, Alain, puisqu'on entend beaucoup de transferts un peu de partout concernant les Dragons. Donc
40 minutes consacrées aux Dragons, on va faire une petite intermède, hein, une petite partie. On va parler un petit peu de l'air, puisqu'il y a un match très important qui aura lieu samedi soir. Les Ignants ont déjà en finale le championnat de France, on le sait, c'est pas une surprise. Et puis il y a la demi-finale qui aura lieu donc samedi à 20h30 entre Carcassonne et Pia. Et là aussi, on va malgré tout être un peu critique, mais là, bon, Hervé Guiraud n'est peut-être pas encore informé, mais toujours est-il que le match a lieu à la même heure que le match des Dragons contre Salford. Alors là aussi, ce qui est pas moyen de trouver une solution. Et
on m'a répondu qu'il n'y a pas que les Dragons dans la vie. Hein.
Ah, c'est vrai en plus.
Ouais. Voilà. Bruno, tu...
Ouais, c'est quand même dommage en plus. Exactement. Quand on voit le nombre de supporters audois qui se déplacent à Brutus pour venir encourager les Dragons tout au long de la saison, ça aurait pu se faire à 16h, 17h, 18h.
Toulouse, à 20h30 aussi, Toulouse. Ouais. Bon, c'est moins moins d'impact.
Toulouse aussi, c'est quoi ça, le jeu de pommes?
La finale Ligue des Champions en plus, ouais. Et ce qui est un plus inquiétant, c'est que Salford n'a pas un gros public, quoi. C'est avec les Queens, c'est un des publics les plus...
Au lieu de s'asseoir chacun à son siège, on va pouvoir s'allonger, hein, bientôt. Je plaisante, on sera là.
Hervé, ancien Lézignan en finale, tu n'es pas étonné?
Non, au vu de la saison, je ne suis pas du tout étonné. Et au travail effectué au sein du club de Lézignan depuis quelques années. Donc pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Alain, au sujet du jour, de la date de cette petite finale, bon, il faut savoir que nos règlements sont ainsi faits que c'est le club qui reçoit qui décide du jour et de l'heure. Donc, réglementairement, on ne peut rien changer. C'est aux gens à discuter entre eux. C'est vrai que moi aussi, je suis souvent surpris quand je vois l'autre jour une demi-finale à 15h à Limoux, une autre à 16h à Lézignan. je me pose des questions. Alors souvent, j'essaye de faire un peu l'entremetteur, mais bon, je trouve souvent la porte close. Et c'est vrai que nos règlements sont ainsi faits. Alors peut-être faudra-t-il un jour au congrès que les gens pensent à changer cela, puisqu'il faut savoir que c'est quand même les clubs qui font les règlements, et après ils sont approuvés donc par le comité directeur. Donc pourquoi pas, moi j'aimerais bien souvent être un peu plus décideur et être un peu plus décisionnaire sur les dates et les jours de match, peut-être, c'est vrai. C'est le club qui reçoit, c'est le règlement qui est choisi. On a du vendredi au lundi soir, on peut fixer le match, l'heure, sans que la fédération...
Oui, le match des Dragons quand même a été décalé, parce qu'il était à 18h30.
Oui, c'est vrai que dans un premier temps, le match des Dragons était prevu à 18h30.
Le match c'est connu depuis...
Tu n'avais pas le temps.
Ouais, mais bon.
Alors que la finale, on l'a connu depuis dimanche.
Ouais, c'est exact.
C'est la date du match des Dragons, bien avant le résultat du premier play-off Carcassonne-Limoupia.
Bon, ils ont peut-être que Carcassonne a été embêté par rapport à l'USC, l'équipe de Carcassonne qui doit faire
qui reçoit, je crois, Périgueux.
Mais eux, c'était prévu samedi après-midi.
La semaine prochaine. C'est vrai que c'est pas quelque chose de facile à gérer, mais bon, quand on peut...
La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il faut calquer champion de la LR sur la rencontre des Dragons et de Toulouse? La question est là à se poser. Parce que si aujourd'hui on regrette que, évidemment, je le comprends très bien, qu'à la même heure, la demi-finale se joue, forcément, tous ces gens de l'Aude qui viennent, et ils sont nombreux, ils vont rester chez eux. Ça, on peut le comprendre aussi. Mais là, comme je vous dis, on me répète souvent, c'est comme ça.
Il y a pas que les Dragons. Lui pour tout le monde, exactement. Voilà.
Une fatalité, il y a moyen de communiquer, de s'appeler, de trouver une solution cohérente et bonne pour tout le monde. Enfin, c'est un peu regrettable, c'est encore une nouvelle fois un peu dommage pour tout le monde. Et puis donc il y a eu cette belle victoire de Pia à Limoux, Pia avec une équipe décimée, avec pas mal de juniors. Bruno, tu étais à ce match-là. Parle-nous un petit peu de cette rencontre entre Limoux et Pia.
Oui, c'est vrai que c'était surprenant. Pour avoir vu le président Amber avant la rencontre, tout le monde faisait vraiment grise mine du côté de Pia. Ils étaient plus persuadés de tenter quelque chose peut-être avec les juniors, quand ils ont vu cette équipe drôlement diminuer. Puis avec la Mélangie qui revenait de blessure, avec énormément de straps autour des genoux, deux joueurs infiltrés du côté de Pia. Et puis finalement, une équipe de Limoux vraiment usée, qui a accusé le coup, qui ne s'est peut-être pas remis de sa finale de coupe perdue contre les Ignants. Ils ont enchaîné ensuite avec un déplacement à Carcassonne, où là aussi, c'était dur physiquement. Et puis on a vu que ce soit Chid, que ce soit Wood, très, très fatigué, Philippe Ramage plutôt éteint, puis le jeune Texido qu'ils ont quand même tenu à mettre, qui a voulu quand même faire cette rencontre au talonnage, qui est la plaque tournante de cette équipe de Limoux, et puis sa sortie a vraiment été préjudiciable à l'équipe qui, sans âme, sans trop après, qui avait juste un petit peu de courage à proposer face à la fougue de cette équipe de Pia, avec un Loïc Jiménez, junior 3e année, qui faisait juste son 3e match à la charnière, qui n'avait jamais joué avec le petit Anthony Carrère, qui lui revenait, avait fini sa saison avec les Espoirs du Sable. Donc lui, c'était son premier match de l'année, associé pour la première fois avec Loïc Jiménez. Et puis,
il a marqué 3 essais d'ailleurs.
Ouais, 3 essais. Ouais. Donc c'est vraiment une charnière qui a dominé sur ces débats. Et ça, c'était incroyable. Plutôt surprenant. Incroyable. De voir deux petits gabarits comme ça face à l'expérience de Michael Murcia, de Philippe Ramage, de voir ces deux petits jeunes-là dominer comme ça cette rencontre. C'est tout à l'honneur de cette équipe salanquaise.
Ils sont improvisés, finalement.
Pour avoir eu Jérôme Lafont cette semaine au téléphone, là, et il m'a dit qu'il n'y a plus de carburant à Limoux. Ils étaient vraiment, vraiment fatigués, atteints physiquement et plus de jus. Donc, face à la fougue des jeunes.
Tant que le score était étroit, ça a pu se tenir. Et puis, dès que Pia a pris le large, c'est fini. Quoi.
Voilà, tout à fait.
Donc une demi-finale Pia-Carcassonne, alors là ça va être aussi très intense, je suppose. Ça se joue à Carcassonne d'ailleurs.
Ouais, Carcassonne-Pia, mais bon, Pia espère rentrer Maxime Gressec, lui victime d'une fracture de la côte lors du match contre les Dragons catalans. Pia va tenter le coup de faire jouer Maxime, mais bon, ils n'en ont pas eu besoin plus que ça. On en parlait d'ailleurs avec Guillaume Knech. Pia a déjà fait des bons matchs une fois qu'il manquait autant de monde. Donc c'est peut-être là aussi que Pia a puisé toute son énergie à jouer avec le culot, avec de l'audace. Le fait qu'il manque autant de titulaires, c'est peut-être ce qui a fait leur force aussi.
Comment se comportait Frédéric Sermeneau au centre?
Frédéric Sermeneau, un joueur besogneux qui ne fait pas de faute. Et puis son expérience permet de placer les petits jeunes qu'il a autour de lui. Car il faut savoir, Pia avait trois juniors sur le banc. L'autre centre, c'était un junior avec Mamet Djalout. Donc c'est vraiment des garçons qui n'ont peut-être pas l'habitude de ce haut niveau. Et puis bon, Fred Sermeneau, sans être brillant, fait pas de faute et fait avancer l'équipe, quoi.
D'accord. On va passer à un sujet complètement différent. Hervé, tu es de retour d'Australie. Tu es encore au moitié endormi. Je crois que c'est le décalage horaire. Alors, tu es parti pour la fédération, évidemment. Il y avait une réunion concernant l'international board. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais oui, la réunion, c'était surtout pour le changement de constitution. Il fallait élire un nouveau président. Bon, c'est Colin Love, le chairman australien, qui une fois de plus a fait acte de candidature et qui a été réélu à la majorité. Il n'y a pas eu de souci là-dessus. Donc ensuite, qu'est-ce qui se fait aux réunions de l'International Board? Bon, ben, on travaille sur les calendriers. Il y a cette fameuse Coupe du Monde de 2013 où les gens réfléchissent sur les équipes qui vont se qualifier. Je crois que l'on s'achemine vers un championnat, une Coupe du Monde à 14 clubs avec deux poules de 4 et deux poules de 3. Et voilà quoi. Ensuite, le board fait un peu tout. Là aussi, j'étais plusieurs fois surpris. Aux réunions du board, on décide des nouvelles règles. Ça arrive sur la table du board. Je ne suis pas persuadé que ce soit souvent les administratives ou les gens de fédération qui doivent décider des nouvelles règles. Et là, il y avait une règle très importante. Il y avait la règle du corner post, là, du poteau de touche, qui est mise en branle de suite en Australie dès la semaine dernière d'ailleurs. C'est-à-dire que lorsque l'ailier touchera le poteau de touche, l'essai sera accordé. Donc les Australiens ont rentré cela immédiatement. Et ensuite, suite au rapport et comment cela va se passer, et une fois de plus, ça va arriver chez nous en Europe.
Dans un futur proche ou
en principe, vous savez, à partir du moment où c'est adopté en Australie, que c'est quelque chose dans le domaine du réalisable, ça va arriver vite, pas une heure après, voilà. Il y a eu aussi quelque chose de très important, le Pays de Galles qui a demandé à être intégré en tant que full membership, donc ça a été accordé là aussi à la majorité. Bon, le Pays de Galles a fait valoir un championnat régulier à National League, un championnat gallois D-Club, qu'eux aussi avaient une équipe en Super League qui travaillait avec des jeunes, puisque les jeunes gallois des moins de 16 ans moins de 18 ans sont venus jouer en France dernièrement. Donc ça a été accepté à l'unanimité. Bon, moi la France a voté pour, parce qu'il n'y a aucune raison justement à ce que le Pays de Galles ne rentre pas comme membre actif et plein au sein du board. Voilà, ensuite on a parlé du Four Nations. Bon, là c'est soumis, donc toujours pareil pour nous, l'équipe de France, à la condition c'est de sortir premier dans la Coupe d'Europe qui arrive en octobre. Que dire, l'équipe de France, je profite de l'occasion pour dire qu'hier soir, ils étaient rassemblés à Carcassonne, où apparemment tout s'est bien passé. Peut-être que Rémi et Sébastien nous en parlent un petit peu, ouais, davantage tout à l'heure, justement, où il y avait beaucoup de joueurs de Catalan, mais aussi, vous avez parlé tout à l'heure de Frédéric Sermenot, pas mal de joueurs qui tapent aussi aux portes de l'équipe de France, et Bobby Gouldin hier était là pour mener tout cela. Donc pour en finir avec ce rapport de l'International Board, il est prévu aussi au mois de janvier 2012 le retour de Nines, un Nines international qui se ferait aux îles Samoa. Les Samoa ont présenté un super projet. Bon, les Australiens poussent au maximum derrière, donc je pense qu'il y aura un championnat du monde à neuf qui se fera en janvier 2012 donc aux îles Samoa.
Voilà. Rémi, Sébastien, voyage en perspective quoi dans les îles?
Donc vous pourrez préparer les paréos,
commencer à affûter les cannes et prendre le palme.
Et nous arranger les baignoires pour les fins de soirée.
Ce sont les résultats de rentrer à nage, hein, parce que on compte sur vous. Oui, Rémi, donc on revient sur l'alerte. Tu as assisté à la demi-finale entre Lézignan et Carcassonne dimanche dernier, tu étais dans ton fief. Et qu'est-ce que tu as retenu de ce match-là?
Oui, j'ai retenu que Carcassonne a bien débuté grâce à deux fautes un peu de Lézignan d'entrée. Et après, ils ont joué un peu trop individualiste, même que ce soit en défense ou en attaque. Ils ont voulu sortir de la ligne, essayer de mettre de gros impacts. Mais c'était du un par un, c'était pas organisé. Et par contre, Lézignan, eux, ils ont joué sur leur vitesse. Ouais. Tous les tenues étaient jouées rapides, ça a enchaîné derrière les tenues. J'ai vu un bon match de rugby de la part des Lézignans. C'est dommage, bon, que Carcassonne n'a pas été à la hauteur. Mais vraiment, les Lézignans m'ont bien surpris. Ça faisait un moment que je les avais pas vus jouer.
Et j'étais agréablement surpris.
Ils ont concrétisé, je crois, 10 reprises. Hein. 10 essais ont été inscrits par les Ignats. C'est quand même pareil. Hein. Ouais. Ça fait lourd pour une demi-finale. Hein.
Ouais, ouais. En plus, que bon.
Pour un derby surtout.
Un derby. En plus, en seconde mi-temps, ils étaient quand même contre le vent.
En plus.
Et ils ont réussi à marquer encore.
Il y a des jeunes qui montrent un peu les dents. Là, oh. Des Ignats, notamment ce pilier là.
Julien Bousquet.
Julien Bousquet, ouais. Très prometteur.
Un bon gabarit déjà. À la Jason Riles, un peu. Ouais, très il avance, il travaille beaucoup. Et voilà, après, non, il y a une bonne équipe, une bonne alchimie entre ces étrangers, Queen et Dugan.
Génération de piliers, les Ignants, hein, c'est étrange ça, qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas?
Ouais.
Hein, c'est les bûcherons, qu'est-ce que vous faites, les Ignants?
Du sanglier.
Hein?
Du sanglier.
La chasse au sanglier, c'est vrai. Le sanglier décoré. Hein.
Oui, il y avait une bonne chambre. Je pense que s'il y avait eu le match, par exemple, de Limoux la veille ou l'inverse, il y aurait clairement. Eu des gens de Limoux qui seraient peut-être venus ou de Pia et... Donc voilà.
Il est à noter la seconde jeunesse de Chris Betty aussi.
Ah chaque oui.
Chaque fois
oui,
qu'il joue.
Qui a rejoué, oui.
La finale de la coupe, ouais. Il est excellent.
Et là, pareil. Il a
pareil.
Intéressant.
Il joue les tenues. Bon, il ne fait pas de percée, mais ouais. Il prend le ballon, il travaille. Et voilà.
Retour de Michel Maïk, soi-disant. Et, bon, j'ai entendu Hervé Guillaume, mais on n'y croit plus.
C'est Alain, je crois que monsieur Montala a été.
Harcelé par les
questions des fauvistes. Voilà, donc on va passer la parole à...
Alors, on va commencer. Alors, écoutez, on va commencer par les joueurs. Après, on vous laissera vous reposer un petit peu. Hein, voilà. Alors, c'est une question de Chap the Idol. Hein, c'est son nom hein, sur le forum. Alors, il dit aux joueurs, en fin d'année se déroule la Coupe d'Europe avec le prestige en jeu de se qualifier pour le 4 Nations 2011. Pardon. La question, on la pose aux joueurs. Hein. Comment vous évaluez les chances de succès de la sélection française contre les Irlandais, Écossais ou Gallois, et lesquels vous redoutez le plus de ces quatre nations, ou ces trois nations?
Les chances de se qualifier, bon, c'est pour les quatre équipes les mêmes, puisqu'il y a trois matchs à faire. Après, je sais pas. Je sais que l'Écosse, ça a été un gros match à la Coupe du Monde. Si c'est le même esprit, si c'est le même joueur qu'on aura en face, ça va être du boulot. L'Irlande aussi, ce qu'elle avait produit, c'était pareil. C'est du boulot, c'est des bons joueurs. S'il y a pas de Richard qui joue chez eux, enfin voilà, ça dépend après des joueurs que pourront avoir les équipes. Soit c'est des bonnes équipes, soit c'est un peu...
Parce que vous avez du pays sur la planche, hein, parce que...
Non, ça dépend, déjà, ça dépend des joueurs qui vont être sélectionnés par les équipes en face, donc...
en face, pas chez nous.
Non, mais chez nous aussi, mais...
Ça tombe bien, parce que je croyais que tu allais me lancer une perche, parce que je voulais poser une question à M. Guiraud, qui ferait bien d'écouter, parce que cette question, elle vient de Dédé, et elle est récurrente, hein, elle est comme la non-sélection de Saïd Tangar. Hein. Voilà, ah ben écoute, moi, Saïd, il est venu sur le forum... Et il a cru même à un moment donné qu'on l'avait empêché de venir. Pas du tout, hein, à Saïtangar. Bon, alors, les gens ne s'expliquent pas pourquoi ce joueur n'est pas retenu en équipe de France. Bon, alors, c'est pas toi l'entraîneur, hein.
Non, voilà. Ni et sélectionneur.
Il faut le voir avec l'entraîneur, donc sélectionneur. Alors, il paraît que c'est un des meilleurs joueurs de la Championship, il paraît, hein. Et est-ce que c'est pas une persona non grata en équipe de France, tout simplement?
Non, pas.
C'est la question qu'on pose. Je crois
C'est sûrement une bonne question, mais moi je ne suis pas, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas ni sélectionneur ni entraîneur de l'équipe de France. Hein. Si Saïd Tangar un jour Bobby Goulding le sélectionne, il sera le bienvenu. En attendant, dont acte. Hein. Donc, il faut faire avec.
Il n'y a rien contre lui. Voilà.
Il n'y a rien contre lui. Je crois que la sélection est ouverte à tout le monde. Moi, la semaine dernière, j'ai vu un Français particulièrement brillant. C'est le seul qui joue en ce moment à NRL. C'est Jason Batiri, qui a eu sa première titularisation au Rooster, qui a joué à côté de Jason Riles, qui a été éblouissant. Il a fait 20 minutes. Un garçon qui peut jouer troisième ligne, qui est exceptionnel. Là aussi, je pense que peut-être Bobby Goulding va analyser son jeu. Je crois qu'on ne peut pas se priver de bons garçons qui joue au niveau supérieur. Donc, mais après, ça, c'est le choix du sélectionneur de l'équipe de France. Hein.
Non, mais il fallait en parler. Bon, voilà. Il est venu, et Saïd est venu sur le forum, et il est venu s'expliquer un petit peu lui aussi. Voilà. Alors, bon, alors on va continuer avec Hervé. Hein, puisque
avec plaisir, peu, puisque était la vedette, puisque ça, j'ai le micro.
Je vois que Louis sourit. Alors, on va revenir un petit peu à cette histoire de Lyon, même si tu en as préparé 12 pages. Parce qu'il y a
non,
attendez. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit sur ce sujet-là. Hein. Et la question, c'est surtout, est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter tous ces problèmes avec Lyon, déjà, pour commencer? Voilà.
Bah écoutez, je vais vous répondre, cher ami René, rapidement, parce que le souci avec Lyon ne date pas d'aujourd'hui, puisque nous sommes réunis, nous, le comité directeur, je crois, le 26 août 2009, justement, suite à la décision du club de Lyon de descendre. Donc, quand je lis sur votre forum que la fédération n'a fait pas son travail, qu'elle fait les choses ont été faites normalement, réglementairement, et moi, tous les matins, je peux me regarder dans la glace en me rasant, il y a pas de souci. Donc, lorsque je vois des gens qui écrivent tout et surtout n'importe quoi, qui disent la fédération, Lyon aurait dû saisir la conciliation, Lyon a saisi fort justement la conciliation, et nous sommes arrivés devant le CNOSF, devant le conciliateur, et à la sortie, le conciliateur, je peux vous dire, nous a proposé d'enlever 6 points au lieu de 12 dans le but d'équité sportive. La fédération l'a accepté. Il faut savoir quand même que
Lyon, ils ont accepté, eux.
Mais Lyon, c'est pour ça que ça me fait rire quand on me dit la conciliation date du 27 avril. Donc, normal, du 27 avril 2010, la proposition de conciliation date du 27 avril 2010 et le club avait un mois pour répondre. Donc, c'est vrai que ça a bloqué tout le championnat. Nous sommes rangés à la décision de conciliation. Mais alors, il faut savoir, je vais vous relever dans l'examen du litige, alors que la Fédération française à 13 semblait acquiescer à ce raisonnement, c'est-à-dire on nous a proposé d'enlever 6 points au lieu de 12 au niveau de l'équité sportive, et s'ouvrit donc la possibilité d'une conciliation portant sur le nombre de points retirés du club requérant, le président de ce dernier, donc, c'est-à-dire du club de Lyon, insistant sur le fait que son équipe aurait dû être reléguée de fait en élite 2 sans que des points en championnat ne lui soient retirés, et refusant le dialogue, a entendu et a quitté l'audience, de sorte qu'au final, aucune conciliation n'a été possible. Donc, vous voyez, ça résume les 12 pages. Au bout d'un moment, on va à une conciliation et après, on quitte la salle. Donc, bon. Donc, je crois que nous avons été sportifs. Nous avons fait appliquer le règlement comme on doit le faire. Je l'ai fait appliquer, c'est moi qui l'ai fait faire au sein du bureau exécutif, parce que c'est le règlement. Que ce soit, j'aurais fait pareil que pour un club de 300 habitants ou de 3 millions d'habitants. Et je crois qu'il faut arrêter de jouer sur le fait, toujours sur un peu le chantage des grandes villes. On a besoin des grandes villes. Au bout d'un moment, moi, il n'y a pas de grandes villes. C'est tout, les licenciés sont tous égaux. Donc les clubs sont égaux. Donc c'est tout. À la sortie, donc nous avons appliqué le règlement. Lyon s'en est sorti. Bon, ils ont fait une bonne saison. Ils ne sont pas qualifiés à la sortie. Ils sont sortis 7e. Bon, mais ça fait partie du rugby. Je pense que l'an prochain, Lyon aura donc tous les atouts pour défendre sportivement les intérêts.
Et on pourra l'avoir, ce communiqué.
Hein. Mais écoutez, moi, j'ai fait aujourd'hui fédéralement sortir une note d'information. On avait mis les 12 pages à tous les clubs d'élite de DN qui recevront dans la conciliation. Et bien sûr, je vous la ferai passer. Et vous pouvez le faire paraître sur le forum. Ce sera avec plaisir, parce que la fédération n'a rien à cacher. Et il faut arrêter d'écrire surtout n'importe quoi.
Voilà, juste avant de finir les questions concernant les joueurs, j'en ai une pour Monsieur Bonnery de Bob 13 de Carcassonne. Elle est très simple. À Louis Bonnery, comment explique-t-il la façon dont Nicolas Coutte commente les matchs?
Non, c'est pas une question piège.
Pour moi, c'est une quiche. Après, il répond à ce qu'il veut.
C'est pas une question piège. C'est une question à laquelle moi je ne suis pas habilité à répondre. Chaque journaliste a son style. Que ce soit un journaliste qui écrit, un journaliste qui parle, un journaliste qui fait de la télévision. Bon, chacun a son style, a sa liberté d'expression. Ce que je peux dire à la personne qui me pose cette question, c'est que Nicolas Coutte prépare très sérieusement ses matchs, voilà, que c'est un arbitre, il a sa licence d'arbitre puisqu'il appartient au corps arbitral de la fédération depuis très longtemps avant de commenter les matchs de rugby à 13, donc voilà, et voilà, c'est un trésiste, donc
c'est un trésiste,
moi je n'ai pas d'avis à avoir. Je dis que professionnellement, c'est quelqu'un qui prépare bien ses matchs.
Il faudra un jour que le fameux Bob se mette devant son téléviseur pendant 80 minutes avec un micro et qu'il essaye de commenter un match.
On verra
la sortie et nous on le jugera peut-être derrière.
Allez, on va continuer avec Louis. Ah Louis, c'est encore pour toi. Alors elle est de Chaps, celle-là. Hein. Voilà. Alors je me suis, alors écoute ça, quand même, c'est bien écrit d'ailleurs. Oui. Je me suis plongé avec bonheur dans votre bouquin Rugby à 13.
Oui.
Je pense qu'on t'a déjà posé, mais c'est pas le plus français au monde.
Oui, le plus français du monde.
il a mis au monde. Bon. Ouais, bon. Depuis un moment, me permettant de connaître un peu mieux le rugby à 13, parce que lui ne connaissait pas tellement. Ma question, y aura-t-il une réédition avec une mise à jour de ces données ? Car aucune accessibilité via le net sur les équipes qui composent l'équipe de France, par exemple. Alors, est-ce qu'il y aura une seconde édition ?
Non.
Et une mise à jour ?
Non. Des mises à jour, ça se fait. Je vois le programme qui a été distribué, par exemple, à la finale de la Coupe Avignon, était de qualité. Donc, il y a des données qui ont été actualisées. Sur l'équipe de France, il y a des programmes. Donc, l'actualité sportive, c'est une affaire quotidienne. Donc, mais en ce qui concerne la réédition, ben, je constate que, par exemple, sur un livre comme Rugby Champagne, depuis sa parution, on a toujours parlé, c'est un sujet qui revient régulièrement. Faut-il le rééditer? Henri Garcia a été d'accord, mais en définitive, c'est toujours des affaires d'argent, des affaires de marché. Et pour l'instant, il n'y a pas de sponsor qui est capable de s'engager derrière un projet comme ça. Et tous ceux qui ont approché un peu l'édition savent bien qu'à un moment donné, il faut au moins payer les imprimeurs, quoi. Voilà, c'est la question de fond.
Merci Louis. Une question de Jump du forum pour Sébastien. Es-tu en fin de contrat avec les Dragons catalans et comptes-tu pérenniser ton futur avec les Dragons justement ?
Ben ouais, effectivement, je suis en fin de contrat comme 13 autres avec moi. Hein.
Ça en est où ?
Ben pour le moment rien, pas de contact. Donc voilà, moi je pas d'autre contact avec les Dragons catalans pour re-signer et avec d'autres clubs non plus. Donc voilà, donc j'attends.
Tu souhaites poursuivre l'aventure ?
Oui, bien sûr.
Bon, c'est quoi, sous-entendu ? Pas d'autres clubs ? D'autres clubs où ? Et dans quelle discipline ?
Non, parce que je m'excuse, le dernier qui nous a dit ça, c'est...
Paris,
c'est,
Paris, non ?
C'est Fakir, il nous a dit. Que bon.
C'est le français.
Le dernier qui nous a dit ça, bien, c'est Fakir. Alors, je me dis, bon, après tout, si on peut arracher une information...
On peut en parler, c'est important d'en parler quand même, parce que c'est pas rien. Hein. On apprend que Jamel Fakir signe à Castres. A priori, ce n'est pas encore fait, mais c'est en bonne voie. Comment vous voyez, vous, son avenir rugbystique s'il part vraiment définitivement à 15 ?
Si un joueur veut tenter l'aventure à 15, le club ne... Je crois qu'il sait, l'entretien avec Bernard s'est bien passé. Il y a eu un commentateur que Jaja pouvait partir à Castres. Bernard le libère à la fin de la saison, hein, en septembre. Hein.
Bien sûr.
Donc après, ben, on va voir ce que Jaja... Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils veulent le faire jouer au centre. Ouais. Je sais pas, il faut voir, il faut lui souhaiter bonne chance, lui dire merci pour ce qu'il a apporté, et puis voilà, bon, d'autres personnes le prennent un peu moins bien, puisque ils prennent ça un peu pour une trahison, tu sais, vraiment les purs et durs, hein, à partir à 15.
Joueur emblématique,
qui a beaucoup apporté
effectivement.
Ouais. Donc, on lui souhaite bonne chance, et puis on verra par la suite s'il arrive à s'adapter au jeu à 15.
Rémi, Sébastien, votre avis sur le sujet, justement?
Juste, je continue, juste pour parler, justement, de l'article, Jamal, parce que bon, c'est vrai que bon. Les purs et durs, quand même, ils ont été un peu, entre guillemets, ils ont été choqués de ce départ. Mais c'est comme ça, hein, c'est toujours comme ça. Par contre, on a du mal à croire ce qu'il y a écrit, hein, je m'excuse, mais qu'ils partent sans contrepartie, surtout le club. J'ai du mal à croire que Bernard Roy se laisse partir sans réclamer une compensation financière. Alors là, j'ai vraiment du mal.
C'est intramuros, hein, on ne se rappelle pas.
Voilà, nous sommes bien d'accord.
C'est intramuros.
C'est écrit, c'est vrai. Maintenant, on a un petit peu de mal. Et pour finir. Alors, je ne sais pas si ça a été dit vraiment par Jamel. Il a dit « Je reviendrai si ça ne marche pas ». Alors là, je ne vous cache
pas. Non, c'est mal interprété, ça a été mal interprété.
Alors, je vous cache
parce
pas.
Parce qu'il y a le contre-viste, tout simplement.
Où les gens, ils sont vraiment mécontents de cette formulation. Quoi.
Mais les gens oublient que Jérôme Guisset, il y a quelques années arrière, a tenté l'aventure à Brive. Et il est parti de Warrington, il a tenté à Brive.
À Toulouse.
Ça s'est mal passé. Il était avec la réserve, il est parti sur Wigan. Donc, Jamel Fakir veut le tenter plutôt que le maintenir ici l'année de contrat. Bernard Roche l'a senti, il a préféré le lâcher plutôt que le retenir comme ça contre sa volonté. S'il faut, ben Jamel Fakir au bout de 3 mois reviendra ou il s'épanouira là-bas et ça permettra peut-être de parler un peu de rugby à 13. Mais c'est vrai que c'est pas le premier à le faire.
Il y en aura d'autres, une page est tournée. Saint-Hélène-Pierre-Potter, effectivement, oui.
Saint-Hélène, par exemple, on a découvert tout le monde, enfin, du moins, à part les vraiment initiés, que Potter quittait Saint-Hélène, c'est la surprise de tout le monde. Mmh. Voilà, parce qu'il dit qu'il va aller en Australie, mais peut-être au Dragon. Moi, je me suis fait une hypothèse que peut-être il reviendra au Dragon, je sais pas.
On entend tellement de choses aussi. Hein. On entend aussi, puisqu'au niveau des rumeurs, puisqu'on y est, on est lancé, on entendait aussi qu'Olivier Lima et David Ferriol seraient contactés, ou étaient contactés ou approchés par les Roosters. Vrai ou faux,
Lima, ça serait Sydney, les Rabiteaux, je crois, ça au Sydney.
Et
Ferriol, Saint-Hélène, oui.
Voilà. C'est valorisant pour les joueurs. Bon, c'est
inquiétant pour les Dragons, valorisant pour les joueurs, mais inquiétant pour les Dragons. Bon, je pense pas que... Je pense pas que David aille faire planter ses vignes là-bas à Saint-Hélène, mais bon.
Je pense qu'il y a aussi une bonne guerre d'agents qui se met en.
Bien sûr, bien sûr.
On sait que les joueurs sont en fin de contrat, donc il y a les agents qui essaient par tous les moyens de faire paraître que tel et tel joueur vont un peu partout pour faire monter les trucs, mais.
Ce qui nous choque un petit peu, j'ai l'impression, c'est qu'on n'est pas trop habitué à ça. Jusqu'à présent, on a beaucoup recruté, on n'a pas été pioché. Donc il y a une part d'inquiétude quoi, qui est légitime.
J'ai l'impression que là, les Dragons catalans ont pris un petit peu de retard par rapport à Kevin Walters. Parce que c'est vrai que c'est difficile de renouveler des contrats ou de signer des joueurs pour la saison prochaine sans savoir qui sera l'entraîneur l'an prochain.
Et ça, c'est effrayant parce que tu as
catalan. Lu,
je ne sais pas si c'est toi qui as
fait. Et Bernard Roche m'avait dit d'ici fin mai, le cas de Kevin Walters sera réglé.
Exactement.
Il reste,
voilà, parce que là, ils ont commencé à travailler sur le recrutement de l'année prochaine. En ne sachant pas l'entraîneur qu'on va avoir, si c'est Walters qui nous fait le recrutement et qui s'en va dans 15 jours.
Non, non, c'est ça, parce que beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs australiens.
On a entendu dans les tribunes qu'il avait re-signé un an d'entraîneur. Hein.
Voilà. Justement, parce que beaucoup de joueurs australiens attendent justement avec leur agent de savoir qui va être le nouvel entraîneur.
Il y a le jour des Crusaders, il y avait David Riolo, donc l'agent. Quand même, c'est lui qui a quasiment tous les meilleurs joueurs australiens dans son book. Il s'est entretenu toute la soirée avec Kevin Walters, avec Christophe Lévy et avec Bernard Gouache. Donc ils ont essayé de faire avancer pour la saison prochaine. Mais le fait que Kevin Walters soit là participe au prochain recrutement des Dragons, il y a fort à parier qu'il soit de l'aventure l'année prochaine. Quoi.
Voilà. Non, mais en plus, ce qu'on a, nous, on est fort, les Dragons. Parce qu'on annonce que M. Finch va peut-être signer aux Dragons. Si tu remarques, Saint-Hélène n'a rien dit, c'est sorti nulle part, mais ils ont fait signer Josh Perry, le gros pilier de Manly, a signé à Saint-Hélène l'année prochaine.
Pour l'an prochain. Finch, donc, c'était ça, pour maintenant.
Finch, il a annoncé l'année prochaine pour les Dragons qu'il souhaitait.
Non, il a annoncé qu'il allait quitter les Storms, certainement pour l'Europe. Ça peut être du 15 aussi, parce que le BO s'est positionné, Biarritz s'est positionné en début de semaine aussi sur Finch et sur Inglis.
Wigan, oui. Qu'est-ce que Seb ou Rémi, pour vous, si on sait, imaginons que Carlo, que Maguire, Stephen Bell, qui peut quitter le navire encore en fin de contrat, et Walker quitte le club. Vous, où c'est que vous voudriez renforcer l'équipe? Pour vous, où c'est que le besoin, c'est la charnière, derrière, devant?
Tu vas pas dire un pilier?
Non, mais si. Ouais, je pense. Je pense qu'on a eu chaque année, la première année c'était Bitty, la deuxième année c'était Chan, bon, il est resté 2 ans. Après, Rice, bon, chaque fois ça. Il faut. Moi je pense qu'un pilier, ouais.
Puis ça dépendra aussi des joueurs français qui vont re-signer, parce qu'il n'y a pas que les étrangers qui s'en vont à la fin de l'année.
Ça veut dire quoi, ça? C'est qu'il y a des rumeurs de...
Non, c'est pas ça. Ça dépendra du président, qui c'est qui va re-signer. Il y a des joueurs qui sont âgés, hein, je ne sais pas qui, et qui peut-être ne souhaitent pas garder. Voilà.
Alain,
je récupère mon micro, on me l'a volé, voilà. Il nous reste 20 minutes pour boucler cette émission. Ouais, ça passerait très vite, hein, quand on prend du plaisir comme ça, quand on est entre nous. Il y a un match très important samedi, capital même je dirais, puisque les Dragons affrontent Salford, qui est avant-dernier aussi, qui a comme vous mal à la tête. Ce match, Rémi, Sébastien, Salford, il faudrait le prendre par quel bout pour s'en sortir, malgré la casse bien sûr qui est très importante.
Par quel bout on prépare ce match comme un autre, quoi. On sait que Salford, ils sont 2 places devant nous, ils viennent de battre Saint-Hélène, ils sont en pleine confiance, ils viennent pour nous gagner. Donc la dernière fois qu'on les s'est rencontrés, c'était en coupe, mais ils avaient fait je sais pas combien d'heures de bus. Donc voilà, on prépare ce match comme un match important, et voilà. On va tout faire pour gagner. Pour bien entamer la seconde partie de championnat.
Oui, tout à l'heure, on parlait de joueurs justement à surveiller de très près, hein, à mettre une pression particulière dessus. Et on s'est aperçu que Jeremy Smith, ouverture de Salford, a mis quand même 3 essais contre Saint-Hélène. Donc 2 vraiment qu'il se pèle, mais alors avec dans un grand élan, je veux dire, et puis avec beaucoup de classe. Est-ce que ce joueur-là, justement, il ne faudra pas le viser et particulièrement, quoi, et ne pas faire comme avec Chelon, qu'on a laissé un petit peu faire ce qu'il a voulu?
On a déjà commencé à travailler à la vidéo cet après-midi. C'est vrai qu'on nous a montré Jeremy Smith qui l'avait replacé à la mêlée ou à l'ouverture, avec en association avec Allsworth. Et que Rashford, il l'avait poussé à l'aile.
Du coup,
parce qu'il y a deux Smith, ils ont Matty Smith, et Jérémy Smith. Jérémy Smith, il joue au talon. Et Matty Smith est rentré à la mêlée. Et
donc Rashford, c'est Matty Smith, alors autant pour moi.
C'est Matty Smith. Rashford est passé à l'aile.
C'est ça, c'est ça. Bon, ça le force, c'est quand même une équipe qui vous a réussi jusqu'à présent, puisque il y a deux rencontres de victoire, quoi.
Oui, oui.
Donc ça, moralement, c'est quand même un petit plus.
C'est sûr, mais bon, il ne faut pas s'arrêter sur ça, parce que il peut... nous, notre but, c'est pas que de gagner Salford cette année. On aimerait en gagner plusieurs. Et voilà quoi, donc on va tout faire pour gagner et enchaîner des bonnes prestations.
Et de votre côté, vous avez des certitudes sur l'équipe que vous allez aligner? Parce qu'avec tous ces blessés, par exemple, Pelo est en état.
Vergens rentrerait.
Au niveau de l'équipe, bon, on ne connaît pas l'équipe exactement, mais bon, au niveau des blessés, c'est. À part. C'est qu'il y a de blessés. Non, Dimitri, il peut jouer. Tony Gigot, il peut jouer. Même Dan Carlo, qu'on craignait le pire, il est apte. Il y a Greg Muniz qui doit passer un test pour le KO. Et vendredi, et si c'est pas concluant, il en aura un samedi matin. Et si c'est pas concluant, il jouera pas. Sinon, il pourra jouer, quoi. Voilà.
Après, il y a Jean-Philippe qui sera pas dans l'équipe, voilà. Puisqu'on l'a opéré hier.
Avec succès, oui.
Et après, la venue de Salford se passe quand même une semaine avant le quart de finale de Cup, qu'il faudra éviter de négliger. Donc peut-être que l'encadrement va aussi éviter de prendre trop de risques, ménager certains garçons qui sont peut-être avec quelques pépins musculaires et physiques pour éviter la contre-performance qui peut très bien arriver, qui est arrivée à Castelfort lors du 5e tour de Cup contre Barreau.
Exactement.
Qui peut très bien arriver face à Batley ou Swinton.
Mais est-ce qu'on a le moyen de négliger un match et le côté sera de jouer un peu?
Mais
pas,
est-ce
quoi.
Que les Dragons catalans l'ont pas fait lorsque David Ferriol n'a pas été titularisé tout juste avant le déplacement chez les Crusaders? Le match qu'il y avait juste avant, David aurait pu le faire. En d'autres temps, il l'aurait fait. Là, ils ont préféré. Il avait des soucis musculaires. Ils ont préféré le ménager, lui donner une semaine de plus pour qu'il soit vraiment performant chez les Crusaders. Donc,
c'est un choix.
Il y a peut-être cette possibilité qui peut.
C'est un choix surprenant, je sais pas. Vous en pensez vous? De la faire. On pourrait dire en notre terme.
C'est bien une première, ça. Ça serait bien une première.
Ouais, faire l'impasse quand on est pas bien. Non, j'ai bien compris.
Prends le micro. S'il y a une incertitude, que ce soit musculaire ou un coup, un gros hématome,
d'accord.
C'est un joueur qu'on peut mettre au repos, d'autant que la réserve a fini. Michael Simon peut très bien faire son retour, son deuxième match de Super League samedi, quoi.
Bruno, tu as vu jouer Salford, toi, donc là-bas, déjà en Angleterre.
Ouais.
Et puis après, je les ai reçus à la maison c'était un contexte particulier, puisqu'ils sont venus en bus, bon, ils étaient complètement émoussés. C'est une équipe que tu redoutes particulièrement,
ouais,
Salford.
Peu d'écart quand même, mais redoute, oui, parce que les Dragons Catalans, de toute façon, n'ont remporté qu'un seul match cette année à domicile.
C'était eux.
Une victoire difficile à Salford, donc forcément une équipe revancharde. Et même si l'entraîneur de Salford avait été très bien dans la défaite, il avait dit que là, c'est pas ce long déplacement qui avait suscité cette défaite, mais ils ont les rendez-vous pour le match retour. Donc,
c'est sportivement correct.
Quoi, samedi, quoi.
Et à noter que le gros pilier, là, Ray Cashmere, là, celui qui fait presque 2 mètres, ouais. 2 mètres 120 kilos, est blessé gravement, il ne jouera pas. Hein, je crois qu'il est... Ah oui, c'est une blessure indéterminée, ils n'ont pas trouvé vraiment la cause de ce qu'il a. Ils ne peuvent pas dire son indisponibilité. Et quelque chose d'assez important. Ouais.
Il y avait quelque chose de pertinent à nous dire,
il n'y a pas de gros pilier à 13, il n'y a que des garçons athlétiques. Des gros piliers, c'est dans d'autres sports.
Rémi Cassis, c'est bon pour l'ego, ça. ça, c'est bon pour l'ego. Et dans d'autres sports, j'ai un peu du mal à saisir. Bon. Le sumo, par exemple. Donc, Salford, ben voilà, je crois qu'on n'a plus trop le choix. Hein. Pour en revenir à ce match, je crois que c'est quand même assez important de le souligner. Salford, ça fait quand même combien d'années que les clubs catalans les rencontrent? Je me rappelle à l'époque du 13 catalan. Les années 80, qui avait pris pour habitude, je crois, pendant 3-4 saisons d'affilée, de les jouer à Brutus. Oui, ça ne voulait pas grand-chose, ça.
Oui, c'était les balbutiements des échanges franco-britanniques. Ouais. C'était
novembre.
Pour le 11 novembre, la fête de Saint-Martin, de la foire de Perpignan, un match phare, etc. Ouais, ouais, donc, c'était quand même une époque. Non, mais Salford, c'est un club qui a toujours été accueillant. Pour les Français, il y a eu beaucoup de matchs internationaux, il y avait de bonnes relations entre les présidents et des membres de la fédération, donc c'est un club où les universitaires par exemple ont toujours été bien reçus, c'est un club qui est près quand même de l'aéroport aussi, c'est Manchester, Salford c'est Manchester, donc ça favorise un certain nombre de choses, quoi. Voilà.
Donc, sur le plan historique, le surnom des Reds, ça vient de chez nous, ça.
Salford Reds, oui. Ouais. C'est,
les Red Devils.
C'est les Diables Rouges qui ont tout peint, les vestiaires, les portes, le stade, tout est en rouge.
Voilà. Et n'oublions pas quand même qu'ils viennent de passer 40 points à Saint-Hélens. Donc ils vont arriver à Brutus, bien remontés, je pense. Hein. Mm-hmm. Donc bon, déjà que nous...
En Moulats, oui.
Quand on dit en Moulats, pour Marseillais, c'est pas facile.
De toute façon, c'est un match qui va être compliqué comme les autres, parce que tout le monde sait que s'ils peuvent gagner à l'extérieur, c'est ici qu'ils ont peut-être leur chance. Bon, jusqu'à présent, les Dragons avaient démontré que c'était pas vrai. Bon, là, ils en ont encore les capacités, et je pense que ça va passer dimanche.
Pour une Catalan pure et dure, là, il y en a autour de la table, entendre dire que... Que c'est facile de venir gagner à Brutus, ça non, va mieux.
C'est dans leur tête. Cette année, c'est plus facile. Je n'ai pas dit que c'est. J'ai toujours dit que c'est.
Non, tu te moques un peu. Je sais qu'il y a un peu d'ironie là-dedans. Venez à Brutus, vous gagnerez, les gars.
Non. Les premières conférences de presse des Dragons qui n'existaient pas, qui étaient en gestation, c'était il faut transformer Brutus en une forteresse. C'était le mot d'ordre et ça a été respecté.
Jusqu'à présent, hélas. On a omis, je crois, quand même, de parler d'un sujet quand même très 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 important. C'est pas de la Super League, c'est de l'Elite 2. Il y a une demi-finale quand même qui va opposer Palo à Bao dimanche. C'est chez nous, c'est un peu
comme ça. Exactement, dans le cratère de Bao. Le cratère de Bao, ça, c'est, ce n'est jamais très 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 grande facile. Notre ami, l'ami Jean-Claude Touchagas annonce beaucoup de blessés aussi à Palo, mais bon, info ou intox, oui, nous le saurons. Voilà, donc il y a deux superbes équipes qui vont représenter le pays catalan, mais qui vont aussi essayer de gagner leur place en finale. Je crois qu'au vu de la saison, c'est tout à fait mérité pour ces deux équipes.
Et l'autre demi-finale oppose
Montpellier à Albi. Montpellier, là aussi, un sacré match en perspective.
La seule chose que je peux dire, c'est que la présidente, Madame Tinière, a demandé déjà un décalage de demi-heure pour la rencontre Bao-Palo.
Comme quoi, tout est possible au niveau de la fédération.
Parce qu'elle a une animation.
À partir du moment où il y a des demandes intelligentes, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr.
Ouais, du moment que la Fédé ne met pas son nez dedans, ça peut s'en.
Vous avez un pronostic, vous, sur ce match-là, Bao-Palo? Qui vous voyez? Jean-Marie, toi, qui as suivi un peu les deux?
Moi, je...
C'est entraîneur de Palo, oui.
Cœur pêché pour Palo, mais ça sera difficile quand même.
On les a trouvés un petit peu.
Mais tout est possible. Hein, et ouais. Sur un match, quoi, une demi-finale, hein, tout est possible. 80 minutes, hein, s'ils se donnent à fond, s'ils enchaînent bien, ils peuvent gagner.
Ils n'ont pas été grandement convaincants dimanche contre Entraigues, Palo. Non, ils ont tout beaucoup hésité, des choix plus que douteux.
Ils sont un peu comme les Dragons, ils manquent un peu de puissance devant en ce moment.
Exactement.
Ils manquent de piliers.
Non, c'est vrai. Et la fédération, intelligemment, a mis un match d'ouverture, la finale de la Coupe Tabouriège des juniors nationaux, entre Entraigues et Lescure, donc je crois un match qui sera aussi très...
Entraigues et Lescure, un pays catalan, c'est judicieux, effectivement.
Ouais. Ben oui.
Ouais, c'est très bien.
Une ouverture à Brutus samedi, je...
À ma connaissance, non.
Je crois qu'il y a des
matchs... Par contre, j'ai une chose à dire, j'ai assisté au match de Palo Entraigues dimanche, et en ouverture, il y avait les juniors de UTC avec les juniors de PIA. Victoire des juniors de PIA. Et à l'ouverture, j'ai trouvé un futur grand demi d'ouverture.
Jiménez.
Ça s'appelle Jiménez.
Mike Jiménez, c'est ça? Non, ils sont deux frères, en fait.
C'est le petit frère de celui qui a joué en élite.
Ou trois ou quatre frères, peut-être.
Oui. Oui, moi, je l'ai vu jouer aussi lors d'une demi-finale contre Y-sur-Tête. À l'UTC, il y avait les deux. Et les deux étaient très bons ce jour-là, oui, en effet.
Et PIA aussi était justement décimé, parce que la moitié, mais 4-5 joueurs sont montés avec la une pour affronter Limoux. Et on a trouvé une équipe avec vraiment beaucoup de panache et beaucoup d'envie. Et puis bon, une belle diversité de jeux. Ils ont été supérieurs aux Catalans, il n'y a pas eu photo sur ce match-là. Ça fait deux fois quand même, ça fait deux fois en demi-finale qu'ils passent face à eux. Et c'est une belle prouesse. Pardon ?
Personne ne brûle.
On allait venir.
Excuse-moi.
Alors vas-y, René. Toulouse Olympique face à Featherstone.
Voilà, le Théo, bon, moi j'ai vu le match... qu'ils ont gagné d'ailleurs. Oui, qu'ils ont gagné là-bas, le mercredi soir. Voilà, c'était un mercredi soir.
À Featherstone, oui, chez les premiers.
Effectivement, alors le match se joue, je crois, samedi aussi.
Exactement.
Alors l'horaire, c'est quoi?
Je crois que c'est à peu près dans ces eaux-là, 20h30, il me semble. Voilà.
Ouais. Alors, on nous reproche un peu de ne pas souvent en parler. Alors, je pensais que Sébastien avait des infos à nous donner sur ce club. C'est vrai qu'on est loin, hein, ça peut paraître paradoxal, mais deux heures, ça nous fait loin pour nous, pour pouvoir en discuter. Alors, moi, je n'ai pas d'infos à donner sur Toulouse, sur les joueurs. Je ne sais pas si.
Non, mais on a promis aux Toulousains, au président Zaldoendo, d'aller faire une 13e heure à Toulouse qui sera vraiment axée sur le Théo. Donc là, on aura tous les intervenants qu'il faut du club, le président, les entraîneurs, les joueurs.
et on pourra vraiment faire une émission alors pour discuter, parce que là, parler de Toulouse, mis à part nous, les résultats, les vidéos que nous avons sur le forum, on ne peut pas trop débattre de ce qui se passe à Toulouse. Vous comprenez bien, monsieur Montala.
Moi, sur Toulouse, j'ai une petite info. On m'a dit que le petit Manka a fait une super saison cette année à Toulouse.
Mancarini, oui, c'est les échos qui nous sont revenus aux oreilles, c'est vrai.
Ouais. C'est des.
Il s'est étoffé d'ailleurs physiquement. Ouais. Il s'est étoffé.
Je peux dire que le président de Toulouse était là dimanche pour assister au match des Dragons contre l'UFC.
Voilà, bon, mais oui, juste une petite parenthèse, j'ai vu une photo de Seb là, Sébastien Raguin, je sais pas si vous l'avez vu sur le Dragon News lorsqu'il était à Toulouse. Vous l'avez vu cette photo?
Plus le même, hein. C'est transformé.
Il faisait la pub pour Michelin à l'époque. Hein. Il va m'encoller une d'ici la fin de l'émission, mais c'est pas grave.
Quand on aura l'état de Sébastien, tu vas t'en occuper.
Il était gaillard, Sébastien, à Toulouse. Non, il était gaillard déjà.
Bon, chers amis, nous arrivons au terme de l'émission. Ça fait une heure et demie que nous sommes déjà ensemble. On va remercier les sponsors qui sont toujours derrière nous.
Voilà, toujours le petit resto, Aïe sur tête, le magasin Camomille, la maman de Thibaut Margalet, C2A, l'entreprise de Régis Ribert. Et nous avons aussi la Peña des Dragons de la Tête. Et puis, remercier aussi, bien sûr. La cabane où nous étions ce soir grâce à notre ami Bruno, mais je vais te laisser conclure là-dessus, Alain.
Il faut remercier aussi Olivier Alvarado, journaliste à l'Indépendant, qui est passé pour faire des photos, faire un reportage sur la 13e heure. Évidemment, remercier nos deux joueurs, Sébastien Raguin et Rémi Casti, qui ont été très bons au micro. Parfait pour une première. Et on se retrouve bientôt pour le prochain match à domicile. On n'a pas le calendrier sous les yeux, on n'a pas été organisé ce soir. Hein. On n'est pas organisé. On comptait sur René Montala, mais bon, on voit qu'il a tapé en touche. Il a tapé en touche. Prochain match dans 3 semaines face à Wakefield. Voilà. Donc voilà. Exactement. Donc on annoncera le lieu, l'heure, et on sera toujours autour de la table, autour de mon apéritif entre 13istes. Merci à tous, à bientôt.